Et on coupe la musique. Bonsoir les amis. Hop, la musique c'est là. On est nombreux dans ce studio. D'habitude, je suis tout seul, surtout à 7h, 21h30. Vous voyez un petit bout de caméra là, qui dépasse, qui est tenu par Anaïs, que je vais vous présenter. Anaïs n'est pas toute seule, elle a coupé. Oh, regardez cette main qui vous dit bonjour. Il y a Virginie aussi. Voilà, ceux qui ont lu la petite notif sur Twitter, sur Insta et sur Twitch aussi le savent peut-être. Alors d'abord, je suis en retard et je tiens à m'excuser. La journée a été... Oh, bah, regarde, certains sont au courant. Bonjour Anaïs, bonjour Virginie. Mais comment ils savent? On a dit les prénoms? Je l'ai dit. Ouais, c'est le soir, je ne sais plus ce que je dis. Donc, la journée a été chargée, on était en question pour un champion, vous savez ce que je fais dans ces cas-là. Plutôt que de ne pas streamer les jours où j'ai question pour un champion, comme je faisais avant, c'est-à-dire d'être absent de Twitch 6 à 7 jours par mois, ce qui n'est pas bien, eh bien, la nouvelle politique depuis la rentrée, c'est de mettre le réveil à 5 heures, de lire les journaux, d'aller à question pour un champion, je vois des bonsoir France 5 pour vous dans le chat, d'aller à question pour un champion, de revenir en courant, comme ça on reste en forme, d'aller voir les enfants, de dîner, de les coucher, de venir dans le petit studio de stream, et ce soir, j'étais un peu retardé aussi, mais pour de bonnes raisons, puisque Anaïs et Virginie travaillent pour France 5, notamment pour l'émission C'est Médiatique, qui est l'émission d'actualité des médias, vous savez, le dimanche. Tu dis pas de bêtises ? Merci. Le dimanche, diffusé sur France 5, et je suis invité de la prochaine édition pour parler des 35 ans de questions pour un champion et un petit peu de Twitch. Donc Anaïs et Virginie sont là pour faire des petites images. Et je vous connais, vous allez sûrement vouloir les saluer. Vous voulez venir dans le show ou pas ? Voici Anaïs, voici Virginie. Voilà. Alors je les connais, ils vont vous poser plein de questions quoi. Voilà, attention, dites pas de bêtises, Dinéo, on passe à la télé.
Je
voilà. Si tu viens.
Bonsoir.
Elles vous disent bonsoir. Tu vas croiser Thierry Moreau, bien sûr. Thierry Moreau qui est maintenant un habitué de l'équipe de C Médiatique depuis la rentrée effectivement. Donc j'explique un petit peu à Virginie et Anaïs. Donc là vous avez le chat effectivement voilà, avec les gens qui sont en train d'arriver. Anaïs travaille aussi pour C'est à vous, me dit Nat. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu travailles ou est-ce que tu as travaillé pour C'est à vous? Ouais, c'est vrai. Bonne info. Elle ne travaille plus. Ils savent tout. Mais elle a travaillé pour C'est à vous. Effectivement. Ouais, exactement. Bonsoir Anaïs et Virginie. Est-ce qu'elles vont rester debout tout le stream? Demande Zestas. En fait, elles sont là au début. Elles sont là parce qu'elles voulaient filmer un petit peu le petit studio de stream. Vous savez où on fait l'hebdo Étienne, on fait Simplay, on fait. La matinée Étienne, enfin ce soir la soirée Étienne. Est-ce qu'elles ont le droit à un verre? Oui, je leur ai proposé, mais elles n'ont pas voulu. Elles m'ont dit c'est trop tard pour le café. Il y a beaucoup de café ici. Et du gaming aussi, puisque maintenant on fait du gaming. Non, elles voulaient voir un petit peu comment ça se passait. Et puis donc elles font quelques images d'introduction. Puis quand on va commencer vraiment la revue de presse, je crois qu'elles vont rentrer. Elles ont peut-être quelque chose à faire aussi de leur vie. Elles restent combien de temps? Je sais pas. Anaïs, Virginie, vous restez combien de temps? C'est elles qui décident. C'est elles qui décident.
On verra.
On verra. Ouais, je vois que Gwenegan est très concentré et bien réveillé. Hello, il y a quelqu'un à côté de toi, attention, bravo pour ce sens d'observation. Est-ce qu'on va jouer à The Witcher ce soir? C'est pas sûr, parce que c'est un stream qui commence tard quand même. Est-ce que je vais me laisser tenter par un petit Rocket League rapide avant d'aller me coucher? Je vais voir. C'est pas sûr, grosse journée demain, les journaux à 5h, question pour un champion toute la journée, et gros spoil, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais comme on est sur internet, on s'en fout, on dit tout. Demain, je participe à une émission sur TF1, le grand concours des animateurs. Pam, 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 vous savez, où il y a tous les animateurs qui viennent jouer à un grand jeu de culture générale. Parce qu'ils enregistrent, avec une diffusion qui est dans longtemps, hein, mais une émission spéciale pour les 20 ans, je crois, du grand concours des animateurs. Et tenez-vous bien, ils invitent tous les finalistes, tous les animateurs qui, dans une émission passée, donc dans un concours des animateurs passés, sont arrivés en finale, un des deux qui sont arrivés en finale. Et il se trouve que je suis arrivé une fois en finale, j'ai pas gagné, mais je suis arrivé deuxième. Et donc, ils m'ont rappelé, voilà. Donc, je fais ça demain. Après, demain soir, je vais rentrer ici, je vais préparer l'hebdo Étienne du vendredi, les thèmes, sur quel thème voulez-vous qu'on parle, vendredi, avec les invités. Je vous ai annoncé, tiens, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, pour ceux qui n'ont pas vu, la fiche de l'hebdo Étienne, mes quatre invités. Hop! De vendredi soir, puisque c'est la reprise de l'Hebdo Étienne après les vacances de la Toussaint. Ici, vous n'avez rien, c'est normal. Ici, vous avez Google. Hop, ici, vous avez le joli tweet que nous avons fait avec Virginie et Anaïs. Voilà. Vous noterez qu'elles sont particulièrement à leur avantage et moi, pas du tout. Voilà, c'est normal. Je suis un vieux machin. Et puis, voici l'affiche de l'Hebdo Étienne de Ça marche plus bien, hein, Twitter, depuis qu'Elon Musk a pris le contrôle. Vous avez vu, voilà. Qui on reçoit, les amis, vendredi soir? Arnaud de sa mère, voilà. C'est sa troisième fois. Il aime bien Twitch. Il aime bien venir à la maison. Je suis très heureux de recevoir à nouveau Arnaud de sa mère. Sarah Ichou, vous ne la connaissez pas peut-être. C'est sa première fois dans l'Hebdo Étienne. Elle travaille au Bondy Blog. Tout le monde connaît le Bondy Blog. Anaïs, comment je peux présenter le Bondy Blog en quelques mots? Tu saurais, toi?
C'est une association, déjà, je crois.
Association?
Associative.
Ouais.
Si je dis pas de bêtises, c'est né après les émeutes. Ouais. Avec la volonté de proposer une autre forme d'information.
Ouais.
Et notamment plus tournée vers les quartiers populaires.
Ouais.
En abordant certains thèmes qui n'étaient pas forcément dans les médias mainstream, on va dire, jusqu'ici.
Attends, je vais répéter tout ce que tu as dit parce que je trouve ça très pertinent.
Et c'est avec des jeunes.
Et avec des jeunes. Attends.
C'est très... Seine-Saint-Denis.
Donc je...
C'est à peu près ça, dans le désordre.
Attends, c'est mon OBS qui a craqué. Je crois qu'on a craqué OBS. Attends, bouge pas. Ne bougez pas, les amis, j'ai l'impression que OBS a disparu de mon côté, mais je vais le retrouver. Tout va bien de votre côté? Attendez. Est-ce que c'est la présence de Tanis et de Virginie, mais l'informatique est en train de nous lâcher? J'ai perdu OBS, en fait. Vous êtes toujours là? Super. OBS... Ouais, là, par exemple, à un moment, vous voyez, sur ma fenêtre ici, j'ai perdu OBS. Alors, où est OBS? Très bonne question. Non, c'est pas ça. Ah, on a trouvé OBS. Très bien. Voilà. Alors, au début, il y a 3 ans, je paniquais quand je voyais des choses se fermer comme ça. Et puis, c'est maintenant, ça va un petit peu mieux. Voilà. Alors, je vais reprendre tous les mots d'Anaïs. Anaïs, je vais te faire répéter parce que c'était très bien ta présentation du Bondy Blog. Alors, association.
Média associatif.
Ça pas mal du tout. Ensuite, tu disais.
Né après les émeutes de 2005.
Né après les émeutes de 2005, c'est vrai. Voilà.
Avec la volonté d'aborder des thèmes qui n'étaient pas dans les médias mainstream.
Et en donnant la parole aux habitants et notamment aux jeunes de banlieue. C'est ça? Hein?
Oui.
C'est ça, hein?
Oui.
Ouais. Voilà. Et donc, Sarah Ichou. Non, mais c'est ça. Tu sais, on peut se faire aussi un petit coup de Wikipédia, hein? Voilà, parce que je pense qu'il y a une bonne page. Oh, mais ça a recommencé! T'as vu? C'est fou, ça. C'est bizarre, ça. C'est vous qui faites des mauvaises ondes comme ça? C'est incroyable. Tu bougez pas, les amis. C'est rien. Bon, ça enferme, on n'a pas besoin. Est-ce qu'Anaïs sera invitée à la prochaine hebdo? Ben, pourquoi pas, on peut l'inviter. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. On va aller. Voilà, on va taper Bondy Blog. Ah, je sais, les amis, voilà. Alors, quand il y a un problème technique, en fait, il faut passer d'un, il faut trouver pourquoi. Tout simplement, le câble de la tablette appuyait sur une touche du clavier, voilà, et nous enlevait tout, en fait. Voilà, ok, bon, on a trouvé le problème. Donc, ça, c'est fait. Voilà, on y est. Hop, ça, on ferme, et ça, on ouvre. Voilà. Alors, on était à une petite page... Et là, ça va marcher, puisqu'on n'a plus le fil. Alors, si on tape bondage, ça va pas aller. Bondy Blog. Alors, il y a le site, et puis je pense que la page wiki est bien faite. Ici, regardez. Et on va vérifier si la présentation à brûle-pourpoint d'analyse du Bondy Blog était bonne, et je pense que oui. Bondy Blog, média en ligne créé le 11 novembre 2005, c'est ce que tu disais, pour vocation de raconter les quartiers populaires. Voilà, en le résumant à l'extrême, c'est exactement ça. Et donc, je reviens à l'affiche de demain. Sarah Ichou, en fait, c'est, je connais plus son titre exact, mais c'est la directrice ou la rédactrice en chef, je ne sais plus, du Bondy Blog. C'est sa première sur Twitch, donc vous voyez, c'est un regard assez intéressant sur l'actualité. Clément Viktorovitch, est-ce qu'on le présente? Clément, c'est un politologue, c'est un habitué des médias aussi. Il signe des billets, des éditos, notamment à la radio. Et Clément Viktorovitch, c'est aussi un streamer. Voilà. C'est la directrice, me dit Loïs Lane, qui est allée vérifier. Voilà, Sarah Ichou, c'est la directrice du Bondy Blog. Clément, c'est son retour sur la chaîne, il était déjà venu. Et puis vous avez Laure Shortgen. Est-ce que certains savent qui est Laure ou pas? Laure, en fait, c'est une journaliste de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, puisque vous savez peut-être que l'émission a un partenariat avec l'INA. Tous les mois, vous avez une journaliste de l'INA qui vient se pencher sur l'actualité de la semaine avec des archives de l'INA pour éclairer justement cette actualité. Donc je trouve qu'on a une belle, voilà, une belle line-up, une belle affiche. Ça, c'est l'émission de vendredi. Et puis, évidemment, dimanche, vous aurez Ça me plaît. Mais je ne vous ai... Si, je vous ai déjà dit à quel jeu on allait jouer ou pas ? Il y a deux jours, j'ai dit à certains à quel jeu on allait jouer. Je ne vous ai pas dit encore l'invité. Certains le savent ou pas ? Ouais. Ouais. Si, j'ai leak sur Simplay. Fall Guys, exactement. Fall Guys. Dimanche, on joue à Fall Guys. Je sais que pendant la crise sanitaire, ça a beaucoup joué, je crois, à Fall Guys. Et j'ai un spécialiste du jeu. J'ai dit un, c'est un garçon, c'est un streamer qui sera avec nous dimanche soir. Je crois que vous serez content de le voir. Ça va être sympa. Et on va passer un bon moment. Voilà. Donc, on a deux beaux lives vendredi soir, le retour de l'hebdo Étienne. Dimanche soir, le retour de Simplay. On va streamer... demain soir, je ne pourrai pas à cause du grand concours des animateurs de TF1. Je m'en veux un peu parce que j'avais prévu un stream. Est-ce que j'aurai le temps de faire un stream vendredi matin de revue de presse avant l'hebdo Étienne ? C'est pas sûr. C'est pas sûr parce que... je vous donne pas d'indice sur l'invité de dimanche soir. C'est trop tôt. Je pense que je vais manquer un petit peu de temps. Voilà, c'est pas mal quand même comme programme. Voilà. Donc comme Anaïs et Virginie peuvent se rendre compte, au début c'est quand même très bavard. D'ailleurs c'est pas au début, c'est tout le temps très bavard, voilà. Parce qu'on se raconte plein de trucs, avec une règle quand même, c'est de ne pas dépasser une demi-heure d'introduction. C'est une règle qu'on se donne, enfin que je me donne, sinon en fait je pourrais parler comme ça, racontant ma vie pendant des heures. 15 minutes, ah on est très efficace, très court ce matin. Donc je vous lis un petit peu, Virginie, Anaïs, vous n'hésitez pas, dès que vous avez une question sur quoi que ce soit, bien sûr vous intervenez. Ouais, Virginie, Anaïs nous dit qu'elle note qu'il y a beaucoup d'interactivité. Mais en fait, c'est tout le plaisir ici. 30 ans, ouais, presque 30 ans de verticalité, c'est-à-dire d'émission d'infos à la radio ou à la télé, dans un sens, et que dans un sens, avec des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs qui ne pouvaient pas répondre, qui ne pouvaient pas dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que je raconte, qui ne peuvent pas poser des questions, qui ne peuvent pas apporter des informations parfois plus précises que celles que j'aimais. Et puis subitement, tu découvres un univers où les gens peuvent justement interagir avec toi. Donc, quand tu as goûté à ça, c'est juste du bonheur. Voilà.
Et puis, il y a un ton plus relâché aussi.
Il y a un ton plus relâché. Et encore là, vous êtes là, donc je suis sage. Voilà. Mais les habitués le savent, je dis énormément de gros mots. Voilà. Mais oui, il y a une liberté de ton parce que c'est ma chaîne, en fait. Donc, j'ai personne pour me dire comment je dois me comporter, les thèmes que je dois aborder, et cette interactivité, ces échanges et cette liberté, quand on y a goûté, c'est dur d'y renoncer. Quoi. Oui, voilà, tu vois, il y a Poppy Pop qui dit « Il est sérieux, Sam, ce soir. » C'est parce que vous êtes là. » C'est beau d'être son propre boss, dit Néo, exactement. Et il parle souvent de Prout, oui, Bobine Bookin, oui, c'est l'une de mes thématiques préférées, effectivement. Je parle de Prout, mais je pète assez peu quand même à l'antenne sur Twitch. Donc voilà, on en parle, mais voilà. Je vous lis un petit peu. Tu leur as dit ton surnom de streamer, me demande Nat. Non.
C'est Monsieur
Chibon. Ah, ok, zut, en fait, elles le connaissent, ok. Ok, super, non, en fait, elles le connaissent, oui. Alors oui, je m'appelle Monsieur Chibre. C'est un surnom officieux, ça n'est pas un surnom officiel. Je n'en parle pas beaucoup à France Télévisions et c'est pas un surnom que j'ai choisi. On me l'a donné, c'est pas moi qui l'ai choisi. Arrêtez. Et donc c'est de votre faute, c'est vous qui avez décidé de m'appeler comme ça un jour. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je vous ai jamais demandé, c'est un peu étrange. Voilà. Bon, alors, du coup je l'assume et mon pseudo de gamer, bien souvent dans mes parties, c'est effectivement Monsieur Chibre. C'est un cadeau, me disent-ils, c'est un cadeau qu'ils m'ont fait. Voilà. C'est un peu trop gros comme surnom, tu as approuvé sur... Non, je ne l'ai pas approuvé. C'est... Non, on va pas en changer, c'est vous qui avez décidé, c'est comme ça. Oui, ça s'est bien passé hier, et on est allé voir... Merci Alexandra. Hier, on est allé voir l'ami Thomas Desseur, vous savez, l'humoriste qui fait aussi la voix du Rewind sur Popcorn, qui vient de temps en temps à la maison dans l'hebdo Étienne, quelqu'un que j'aime beaucoup, et qui a son one man, qui a son spectacle un petit peu partout en France. Il avait une date hier soir à Paris. On est allé le voir avec Joe. On était avec Pépin dans la même loge. Il y avait mon amoureuse aussi. Et puis il y avait du beau monde. Il y avait Ben Nevers, le youtubeur qui est génial, que j'adore, qui était là. Et il y avait dans la loge à côté deux petits jeunes qui débutent sur YouTube. Comment ils s'appellent ? J'ai fait un selfie avec eux, je vais vous montrer. Ils sont pas très connus. Attendez, pourtant ils sont vieux, mais ils débutent. Je sais pas si vous les connaissez, je vous montre l'image. J'ai pris un selfie avec eux. Je sais pas. Vous les connaissez, vous ? En fait, ils arrêtaient pas d'insister pour faire une photo avec moi. Je dis, oh là là, vous êtes lourd et tout. Je suis avec des amis et tout. Comment vous dites ? McFly et Carlito ? Non, McFly et Carlito ? Non, je sais pas. Vous connaissez ? Je pense qu'ils m'ont... J'ai l'impression qu'ils débutent. Hein. Non, blague à part, oui, effectivement, au bout d'un quart d'heure, parce que je suis un peu distrait, j'ai vu que dans la loge à côté, avec McFly et Carlito, qui sont sympas, qui m'ont invité sur une vidéo il y a quelques temps. Vous savez, c'est celle où Virginie Efira ne savait pas qui j'étais. Vous savez, le gros bide, là, vous vous rappelez. Donc, c'était chez eux, donc on a bien rigolé. Et puis, ils étaient à côté. Et puis, pour être tout à fait honnête, quand la salle s'est rendue compte qu'il y avait McFly et Carlito dans la salle, juste derrière, les gens se retournaient en mode, ils regardaient plus Thomas de Sœur, qui disaient « Ouais, bah, les gars !» Les gens prenaient des selfies et tout, quoi. Moi, j'étais juste à côté, en mode « Ok, je suis de la merde. » Super. C'est vraiment des stars, c'est des vedettes, c'est incroyable, quoi. Voilà. Hop, ça bon, ils sont assez connus comme ça. J'arrête de leur faire de la pub. Donc c'était bien, c'était l'ami Thomas hier. Alors c'était... Oui, c'était bien. C'était un joli spectacle, c'était un joli spectacle. Bon allez, 19 minutes, ça va, on a le droit encore un petit peu parler. Mais c'était bien, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Enfin, c'était bien. J'ai fait un peu mon crado quand même. Parce qu'en fait, donc on était en tournage toute la journée. On arrive au théâtre, là, parisien. Et puis j'avais faim. Et puis il y avait des sandwichs. Enfin, il y avait une buvette, on pouvait acheter des sandwichs. Avec Hélène, on prend des sandwichs, poulet, truc, œuf. Enfin bon, genre, le gars nous dit, c'est. Je sais plus, c'est un genre de salade niçoise dans de la baguette avec du poulet. Bon, ok, on en prend deux, ok. Non, j'ai pas pété, non, c'est pire. Et en fait, donc, mais la question de l'œuf est importante. Espèce de pan bagnat, pas vraiment. En vrai, c'était bon. Et donc, je mange ça pendant le spectacle, discrètement, voilà, parce que j'avais super faim et tout. Et jusqu'ici, tout va bien. Et puis, la fin du spectacle arrive, donc les lumières se rallument. Et là, je ramasse mes affaires et je vois à mes pieds un tapis d'œufs. C'est-à-dire, en fait, la moitié de l'œuf de mon sandwich était tombée sur la moquette rouge du théâtre, voilà. Et j'avais piétiné tout ça pendant une heure et demie. Mes petits pieds, de temps en plus, fallait faire comme ça, fallait taper pour faire du bruit et tout, quoi. Donc j'ai littéralement recouvert d'œufs écrasés la moquette rouge, quoi, avec mon sandwich à l'œuf. Dégueulasse. J'aurais dû prendre une photo, c'était ignoble. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé me dénoncer, parce qu'après je suis allé voir l'ami Thomas de Sœur en coulisses, on a croisé Ben Nevers, il y a McFly et Carlito qui étaient là aussi, et donc je suis allé voir la responsable du théâtre et je lui ai dit, écoutez, j'ai commis un crime, j'ai commis un délit, je leur ai expliqué son sandwich à l'œuf, quoi. Et ils m'ont dit, c'est pas grave, c'est qu'on va nettoyer et tout, je lui ai dit, c'est de l'œuf, hein, quand même, sur la moquette, non, vous inquiétez pas et tout. Bon. Donc j'étais un peu dédouané, mais pas très très fier. Pierre-Yves, du coup, t'as tout nettoyé. Moi, j'étais prêt à tout nettoyer. Mais en même temps, ta place était assignée, donc il l'aurait su. Non, parce que c'était aussi la loge de Joe. Donc j'aurais dit que c'était Joe. Ou Pépin. Donc non, j'ai préféré me dénoncer, faut être honnête. Je vais remercier les subs, et je vais expliquer du coup à Anaïs et Virginie qu'est-ce que sont les subs. Qu'est-ce que sont les subs, Anaïs? Une idée ou pas? Virginie. Alors les subs, là on évoque un petit peu le modèle économique.
C'est les abonnements,
exactement. Les subs, subscription, quel accent. Les subs, c'est les abonnements. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui regardent un streamer peuvent, sur la base du volontariat, s'abonner à ta chaîne, moyennant quelques euros par mois. Twitch va en garder une partie et va reverser une partie de cet abonnement au streamer, au créateur de contenu. C'est un abonnement qui ne donne pas grand-chose de plus que s'il ne payait pas. Un badge, des petites choses comme ça, un accès privilégié au chat, parfois pas de slow mode, et puis au replay aussi, mais globalement ça donne pas beaucoup de choses de plus. Ah, on n'a pas de pub, me dit MJ, c'était ça, enlève la pub, voilà. Mais c'est surtout un soutien, en fait, et c'est ça qui est beau. C'est sur la base du volontariat et c'est un soutien au créateur de contenu pour lui permettre, en fait, de pouvoir passer le plus de temps possible sur Twitch, voilà. Là, par exemple, je vais remercier Bobine Booking qui a offert un abonnement à la commu, Nicoloco pour être précis, qui a offert un abonnement à la commu, Freefly 30 pour son 8e mois d'abonnement, Le Viking Moderne pour son 4e mois d'abonnement, qui nous dit bonjour tout le monde et bienvenue aux deux invités de France 5, c'est pour vous, Aurélien 2022 pour le 2e mois d'abonnement, hâte de te voir gagner au concours des animateurs, quand je vais me faire bananer au premier tour, surtout, tu verras, mais merci beaucoup, Nicoloco à nouveau pour son 4e mois pour lui, la Lou Coupter, Loulou Coupter, pas mal. Lou Coupter pour son 5e mois d'abonnement, Clarette Dedi, j'adore, pour le 27e mois d'abonnement, donc j'ai le pseudo et puis j'ai tout ça, l'ancienneté, Mimic pour son 5e, Ternalis pour son 5e, Hazard pour son 27e mois d'abonnement, les abonnés, les habitués sont là, vous êtes super, Nexodis pour le 18e mois, Sarah Molly, Sarah, plus loin Molly. J'ai mis des mois à comprendre la vanne. Je l'ai comprise il y a quelques jours. Sarah Molly. Tu l'as ? Je l'ai pas. Pendant des mois, j'ai dit « Ah, salut Sarah Molly. Sarah Molly, comment ça va ?» J'ai compris ça il y a deux jours. Sarah Molly. Voilà. Donc Sarah Molly qui est une vieuse et qui est une modo, qui est devenue modératrice depuis aujourd'hui. Je lui ai donné les droits parce que elle avait envie, elle s'est proposée gentiment, quoi. Ça tombe bien parce que je viens de comprendre la blague, en fait. Donc il était temps. Sarah Molly, ça, excellent, en fait. Hein. Ouais. Et qui donc est devenue modératrice. Et donc c'est son premier stream ce soir. Vous pouvez l'accueillir, Sarah. Et, gentiment, elle nous consacre du temps. Sarah Molly, Yesh Ancro, Natacha, Le Studio Car, Radiculio, Julo, puisqu'on parle des modos, Babadi, Tromtan, Armiel, vous êtes formidables. Merci du soutien. Pugna 31 à l'instant. Salut France 5, nous dit Pugna. Portachar pour l'abonnement offert à la commu. Jeff Edmond. Prénom, mieux. Jeff Edmond, mieux. Celui-là aussi, au début, je ne l'ai pas capté tout de suite. Merci, Jeff, pour l'abonnement offert à la commu. Vous êtes formidable. Voilà. Donc, l'humour a une place assez importante sur Twitch. Voilà. Ça, on rigole, on dit plein de bêtises. Il me reste 5 minutes, 4 minutes 45 d'introduction, les gars. Puis on va faire un petit sommaire. Tiens, il faudrait trouver des pseudos aussi pour Anaïs et Virginie, tiens. Si tu joues à Rocket League ce soir, c'est nuit blanche. Non, je peux pas. Demain, j'ai question pour un champion. J'ai TF1 le soir. Pas de Rocket League ce soir. Non. Oh, vous êtes trop mignon à accueillir Sarah. Non, pas Sarah Molly. Ah, oh, il y a Arnaka qui a réinventé le pseudo de Sarah. Sarah Molly. Oh, vous êtes grave. Vous êtes insupportable. Ça y est, ça part en sucette. Ça part en sucette. Okay. Alors le bonheur ici, c'est de lire, hein. C'est de lire ça. Hein. Je comprends rien. Pourquoi Samuel n'est pas seul dans la pièce ? Ah, late runner off. Late runner, tu portes bien ton pseudo parce que tu es en retard. En fait, il y a deux journalistes de France 5 qui sont adorables, qui vont revenir faire un coucou parce que tu ne les as pas vus, et qui font un reportage pour l'émission C'est Médiatique. Venez faire un coucou. Hein. Venez. Ça, c'est Virginie. Et Anaïs est à la caméra. Hop, voilà, c'est ouais. Nice. Bon, on voit surtout tes caméras. Qui font un reportage pour C'est Médiatique, l'émission sur les médias de France 5 qui va être diffusée dimanche. Voilà. Je serai en plateau aussi pour raconter ma vie comme d'habitude. Bonjour les filles, dit Pulpitane. Connais-tu le. Non, je ne connais pas ce streamer. Oui, non, il y a des pseudos que je ne lis pas. Il y a certains me rappellent. Il y a certains pseudos très exotiques sur ma chaîne. Je ne vous les lis pas. Vous n'êtes pas prête. Non, au début, c'est vraiment très surprenant. Alors, Thiel Paris dit « Salut Sam, j'ai toujours pas compris pourquoi tu faisais une revue de presse le soir alors que normalement c'est le matin. » Tout simplement parce qu'avant, pendant 3 ans, puisque la chaîne va avoir 3 ans, je ne faisais pas de revue de presse. Quand j'avais question pour un champion, c'était impossible. La revue de presse, c'est 9h midi. Et moi, ben, à 9h, je suis à question pour un champion et hop, ça tourne toute la journée. Et donc, je trouvais ça un peu naze de m'absenter 6 à 7 jours tous les mois et d'être un peu un streamer intermittent. Et donc, j'ai pris cette décision, dans la mesure du possible, les jours de questions pour un champion, de lire la presse le matin très très tôt et de vous la lire le soir. Voilà, comme ça, je suis sur Twitch quasiment tous les jours. Voilà, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est bonheur. C'est pour ça. Il reste 2 minutes 30, les amis, d'introduction. Je me disais bien que ta coiffure était au top aujourd'hui, c'est donc pour France 5. Eh ben non. Vous pouvez demander à nos deux amis journalistes ici, il n'y a eu aucune préparation. Je suis arrivé comme un sagouin. Voilà. J'ai pris une douche parce que j'avais couru un petit peu. Voilà. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que juste avant de les rejoindre, je me suis gavé de fromage parce qu'il fallait que je mange très très vite. Donc je me suis gavé de camembert. Je ne me suis pas lavé les dents derrière. Vous avez senti quelque chose ou pas ? Vous en êtes rendu compte ou pas ? Il y a du bol, hein, parce que j'avais un vieux clacos là. Elles se sont rendues compte de rien. Et donc, pourquoi je parle de ça ? Je ne sais plus. J'ai perdu le fil. Est-ce que tu as donné ton surnom ? Ah, non, mais ça, elles connaissent mon surnom. C'est bon. Non, non, je ne me suis pas préparé du tout. C'est ma tête. Vous êtes gonflé, hein, c'est ma tête normale en vrai. C'est ma tête normale. Les pauvres, tu les fais bosser tard. C'est vrai, vous bossez tard. Ça vous arrive souvent d'avoir des horaires comme ça un peu.
Ça arrive.
Ouais, ouais. Ouais. Bah, c'est des journalistes. Hein. Il n'y a pas d'heure pour l'info.
Non.
Voilà. Demain, vous commencez tôt ?
Non. À 10h.
14h, elles me disent.
Non.
Oh, c'est vraiment des. Oh, le service public. Non, 10h. On t'a jamais vu autour de la télé. Y a-t-il Paris qui dit on t'a jamais vu autant à la télé depuis que t'as arrêté la télé. J'ai pas arrêté la télé. J'ai arrêté la matinale de France Info parce que j'en avais marre de me lever à 2h. Eh, vas-y, lève-toi pendant 7 ans à 2h du mat. J'étais crevé, moi. Donc j'ai arrêté. Enfin, j'ai pas arrêté la télé. Voilà. J'ai arrêté la matinale de France Info que j'adorais. J'adorais l'équipe, j'adorais la ligne éditoriale, j'adore cette chaîne. C'est juste que physiquement, ça commençait un petit peu à piquer un peu, quoi. Voilà. Voilà. Tu as pris ta douche mensuelle. Oh, vous êtes gonflé. En fait, il y a une légende. Les streamers, qui sont souvent des gros gamers, il y a une légende urbaine qui voudrait qu'ils ne prennent pas trop de douches, qu'ils sautent des douches pour pouvoir streamer, jouer plus. Donc c'est une espèce de légende, et quand tu prends des douches vraiment régulièrement, t'es pas un vrai streamer. Voilà, c'est un peu, bon, c'est une espèce de blague. Donc c'est d'où la douche mensuelle. Voilà. Je me suis douché il y a genre 1h30. C'est une légende à monsieur âgé. Hop, 29 minutes 58 secondes, top, c'est fini. Les amis, on est dans la soirée Étienne, donc on lit les journaux. Je ne vous ai pas mis 1000 articles de côté ce matin, je vais vous faire un petit sommaire. Ceux qui ne peuvent pas rester 2 heures avec moi, vous allez avoir l'essentiel de l'actualité, on va dire en 5 minutes. Voilà. Donc on ne débat pas trop pour l'instant, on ne va pas trop échanger. Je vais juste vous lire les quelques articles. Vous verrez moins que d'habitude que je vous ai mis de côté, mais histoire quand même de vous tenir au courant de l'actualité. Est-ce que vous êtes prêts pour le sommaire? Est-ce que j'ai un grand yes?
Oh yes!
J'ai des effets spéciaux sur cette chaîne. On a beaucoup de moyens. Est-ce que vous êtes prêts pour le sommaire?
Yes!
Est-ce que vous êtes prêts? Il y a un yes qui est mieux que les autres.
Yes, 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 yes.
Non, c'est pas celui-là.
Yes!
Non, c'est pas celui-là. Il y en a un qui est terrible.
Yeah,
well. Oh, c'était celui-là! On l'a raté. On recommence tout.
Yes! Give me a
yes. Non!
Yes.
Il arrive.
Well, yes.
Non, c'est pas celui-là.
Yes.
Non.
Yes, 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 yes.
Non, il arrive, c'est celui-là.
Yes.
Non, c'est celui-là.
Yeah, baby.
Voilà, c'est celui-là. Celui-là, il est bien celui-là. C'est mon yes, baby. Pardon, j'étais sur mon yes. Et vous? Ah, il y a quelqu'un qui a quasiment qui a une émote qui est quasiment mon yes, baby. On y va? On est parti? Ok, c'est parti. Je remercie Steedpo17 pour le troisième mois, Garnix pour le Prime, CTL NEM. C'est pas CTLM, c'est CTLNEM pour le 23e mois d'abonnement. Loulou722 pour le 19e mois, Zals pour le 11e mois, Pugna31 pour le 27e mois. Vous êtes formidables. Le sommaire, c'est parti, c'est ici. Alors, je redeviens un petit peu sérieux parce que ça, c'est une info dont je voulais vous parler, qui est une des infos pour moi essentielles du jour. C'est cette grande marche citoyenne dimanche contre l'antisémitisme, puisque deux personnalités, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher, vous le savez, ont appelé à une manifestation, tous les deux. C'est assez intéressant, peut-être inédit, hein, la présidente de l'Assemblée, le président du Sénat qui appellent à une manif ensemble. Je ne me rappelle pas avoir déjà vu ce type d'initiative. Donc une manif pour dénoncer l'antisémitisme et la hausse des actes antisémites en France, notamment, vous le savez, depuis l'éclatement de cette nouvelle guerre au Proche-Orient. On a des chiffres là-dessus, hein, ça n'est pas qu'un sentiment, effectivement. Et dans cet appel, il y a aussi une polémique, puisque Jean-Luc Mélenchon a rejeté cette initiative. Pourquoi? Voilà, titre du spam, on parle. Devinez qui ne veut pas y participer. C'est une info dans l'info. Jean-Luc Mélenchon, non seulement ne veut pas participer, mais estime que c'est ni fait ni à faire. On essaiera de comprendre pourquoi. Donc, je vous parlerai de ça. Je vous montrerai d'ailleurs l'appel, parce qu'il faut toujours aller à la source dans l'information, pas seulement écouter les analyses des uns et des autres, mais en fait, c'est le Figaro ce matin qui publiait l'appel du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée pour expliquer justement pourquoi tous les deux appelaient à une marche contre l'antisémitisme. Voilà. Je vous lirai ça, bien sûr. La Une de Libération, regardez, est consacrée à la guerre en Ukraine. Tout à fait, MMG7F a raison. L'extrême droite sera présente à cette manifestation, en tout cas des représentants du Rassemblement National. C'est à indiquer, d'autant que du coup ça a provoqué des réactions à gauche. Est-ce qu'il fallait participer à cette marche contre l'antisémitisme à laquelle l'extrême droite allait également participer? C'est un débat assez intéressant, on en parlera. Vous êtes nombreux régulièrement à me dire, et vous avez raison, Est-ce que ce qui se passe au Proche-Orient n'a pas fait oublier la guerre en Ukraine, a fait passer la guerre en Ukraine au second plan ? Vous avez raison. Je peux vous dire que la presse écrite n'a pas oublié la guerre en Ukraine. Je ne sais pas si c'est le sentiment que vous avez sur les chaînes d'infos en continu, dans les JT ou sur Internet. Mais moi, je peux vous dire que la presse écrite n'a pas oublié l'Ukraine et consacre régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, des articles, sinon des unes, ici celle de Libération, à la guerre en Ukraine. La guerre figée. Vous n'allez pas apprendre beaucoup de choses avec cet article, puisque je vous en ai déjà beaucoup parlé. Le front est quasi figé, malgré les moyens militaires très importants mis des deux côtés, ukrainiens et russes, malgré les pertes en combattant aussi. Mais on fera un point avec Libération quand même, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a cette guerre en Ukraine. Et on a une interview dont parle Libération du chef des armées ukrainiennes qui reconnaît effectivement que le front n'avance pas. Je vous parlais de Jean-Luc Mélenchon, on va parler un petit peu de LFI parce que une élue LFI, Raquel Garrido, que vous connaissez peut-être ici, qui est ici, vient de se faire sanctionner par son parti. Voilà. C'est très tendu en ce moment au sein de, pas seulement de la NUPES, mais au sein même de LFI. La punition, hein, ce sont les mots utilisés par Libé, de la députée de la France Insoumise qui pèse ses critiques envers la direction de LFI, notamment de Jean-Luc Mélenchon et de ses proches, illustre la tension croissante au sein du mouvement. Plusieurs frondeurs lui ont déclaré leur soutien. Bon, c'est pas inintéressant de voir un petit peu ce qui se passe au sein de LFI. Je vous en parlerai rapidement. Et puisqu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, un sondage dans le Figaro sur la popularité qui est au plus bas de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Il y a une enquête même qui parle de lui comme de la personnalité politique la plus détestée des Français. Il aurait pris la place de Marine Le Pen à ce titre. Voilà. Qu'est-ce que vaut cette enquête ? On verra que la cote de popularité de Jean-Luc Mélenchon, ces dernières années, elle a beaucoup varié. Il a déjà connu des très bas, même des beaucoup plus bas que ça, voilà. Et il s'en est relevé après, notamment pour la dernière présidentielle, on verra pourquoi. Une petite analyse sur la popularité de Jean-Luc Mélenchon. Et puis c'est pas sans conséquence, puisqu'il y a quand même des échéances électorales qui arrivent, des élections européennes, une présidentielle qui se prépare. Il s'agit de savoir qui va représenter la gauche, bien sûr, pour avoir le plus de chances possible pour que la gauche revienne un jour au pouvoir dans notre pays. Ça, évidemment, c'est l'espérance de la gauche, et notamment de la NUPES. Je vous écoute, je vous entends. Quand vous me dites, Samuel, tu ne rapportes que des mauvaises nouvelles, que les mauvaises infos, que les drames, les crises, les guerres, etc., vous avez raison, c'est un défaut des médias qui parfois ne nous rapportent que ce qui ne va pas, et vous avez raison. Alors j'essaye de trouver un petit peu de temps en temps des motifs d'espoir, des infos positives, et puis en fait on en trouve, c'est juste que parfois on ne fait pas attention. Là par exemple, il y a un prof français qui fait partie qui a été retenu dans un concours pour désigner le meilleur prof du monde. Bon, ça veut rien dire, c'est très subjectif bien sûr, mais c'est un prix assez intéressant, international, qui récompense chaque année un prof. Alors il peut être, ouais la pub en dessous, ouais, alors c'est vrai que ça n'a aucun sens. Les services de la publicité d'un journal et la rédaction sont totalement indépendants. Du coup, ça donne parfois n'importe quoi. Alors là, ça va encore, hein. Vous avez une pub sur du poisson, Édouard Leclerc, sur l'histoire du prof. Donc c'est un peu bizarre. Moi, je vous avoue, je ne les vois plus, les pubs, parce que comme la presse, je la lis tous les jours, je ne fais pas attention aux publicités. Mais parfois, vous avez des trucs super choquants. C'est-à-dire, parfois, vous avez une actu dramatique. Je sais pas. Moi, j'ai vu des articles récemment sur ce qui se passe au Proche-Orient, et juste à côté, vous avez une pub pour une montre. Parce qu'en fait, les services publicité et rédaction d'un journal sont séparés. Voilà, et se parle pas toujours, vous voyez, au niveau de la maquette, tout ça. Et vous savez quoi ? Alors, parfois c'est choquant, mais c'est aussi une bonne nouvelle. Parce que qu'il y ait une frontière étanche, très fermée comme ça, entre le service pub, les annonceurs, et la rédaction, qui ne doit pas être influencée par les annonceurs, c'est plutôt bien. Voilà. Donc, voilà. Faites pas attention à la pub, on s'en fout, quoi. Donc, un espèce de concours pour désigner le meilleur prof du monde. Et puis, il y a un Français qui est dans les 10 derniers, voilà. Sachez que le prof qui gagne ce concours, il gagne 1 million de dollars. Et ouais, je crois que c'est une association américaine, un truc comme ça. Donc, c'est assez étonnant. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir ce que ce prof français, qui s'appelle Nicolas Gaube, a fait dans son école, dans sa classe, en fait, pour mériter sa sélection. C'est cool, donc c'est plutôt positif. Vous savez que c'est... je considère que c'est un des plus beaux métiers du monde, le plus important, la transmission, l'accompagnement, l'éducation d'un jeune, d'un enfant, vers le libre arbitre, vers la pensée, la réflexion, la culture. C'est une mission essentielle. Notre société l'a un petit peu oubliée. Hein. Les profs se sentent un peu délaissés. Donc c'est intéressant de voir que y en a quand même qui se décarcassent malgré des conditions de travail qui sont parfois difficiles. Voilà. Et puis on finira avec un truc qui pourrait faire rire et en fait pas du tout. Une double page hyper intéressante dans Le Parisien de ce matin sur les humoristes en France. Humoristes, spectacle, one man show, radio, télé. Pour qui c'est compliqué en ce moment ? Parce qu'en fait, l'actualité est très tendue. Hein. On parlait d'antisémitisme, on parlait de Proche-Orient. Et en fait, l'actualité est très tendue. Et en fait, tous ces humoristes, hein, les Philippe Cavrivière, Arnaud Demanche ici, Sophie Aram, il y en a plein aussi, eh bien, expliquent que c'est très compliqué en ce moment de faire rire. Parce qu'ils doivent choisir encore avec plus d'attention, de prudence, leurs mots que d'habitude. Il y a même des thèmes qu'ils n'évoquent plus. Ouais. Comme le dit Moulbit. C'est quoi ce pseudo ? Tu peux pas t'appeler Moulbit. En plus, tu dis un truc super intéressant. Moulbit. Non. C'est compliqué pour Meurice, effectivement. Meurice, vous savez, c'est quoi son prénom déjà ? Merci. Guillaume Meurice, humoriste de France Inter, bon, qui a dit un truc sur Netanyahou, là. Avec le mot nazi dedans, si je dis pas de bêtises, et alors ça a provoqué beaucoup de réactions. Il a reçu un avertissement, sinon une sanction de la direction de France Inter, vous verrez. Donc voilà, c'est assez tendu pour les humoristes français, donc on finira avec ça. Voilà. Et peut-être un petit Rocket League, mais je pense pas que j'aurai le temps. Voilà pour le sommaire, les amis. Donc ceux qui n'ont pas deux heures à me consacrer ce soir, vous avez l'essentiel de ce qu'il y avait dans l'actualité ce matin, ce qui m'a semblé intéressant. Maintenant, on va lire tout ça, on va prendre le temps, on va échanger, on va débattre, on va essayer de comprendre tout ça. Et je vais vous lire un petit peu avant de commencer. Tout va bien, Virginie, Anaïs, ça va, ça va. Red Metal 31, merci pour le 7e mois. Casus Smile, merci pour le 6e mois. Stipo 17, merci pour cet abonnement. Garnix, merci pour le Prime. Vous êtes formidable. Allez, je vous lis un petit peu. Ah. L'humour a changé depuis quelque temps, les blagues des années 90, c'est finito. C'est clair que l'humour, c'est aussi un miroir en fait de la société. On peut plus, manifestement, on peut plus rire des mêmes choses qu'avant. C'est pas forcément une mauvaise chose, d'ailleurs. Voilà. Et oui, l'humour évolue. Ouais. Nucléon commence déjà le débat sur Meurice, mais on l'aura tout à l'heure. Même si je ne partage pas ses idées d'habitude, me dis-tu, ça me dérange pas, ces débordements. Mais là, effectivement, il a pas mal déconné. On en parlera. On parlera. Ouais, attendez, certains ne valident pas certains humoristes. Là, je vois des commentaires sur Sophie Aram, par exemple. L'humour, c'est très subjectif, très relatif. Vous aimez pas. Hein. Ouais, mais restez correct, hein, quand même. Hein. Quand même. Oui, je participe au concours des animateurs sur TF1 demain. Ça va être formidable. Je vais tout casser. Je vais évidemment tout gagner. Les deux journalistes font la sieste, me dit Zerka. Anaïs, Virginie, il y a Zerka qui dit que vous faites la sieste. Mais non, elles sont en train de préparer leur départ. D'ailleurs, je vais leur rendre leur petit micro, parce que ce petit côté échancré de mon t-shirt n'était pas un petit effet de style. Seulement, j'avais un micro, je fais attention de ne pas montrer mon bedou. Hop, voilà. Hop. Regardez pas, vous. Regardez pas. Je rends le micro. Je pensais que je m'étais chopé un petit HF gratuit, mais non, il faut que je le rende. Hop. Voilà.
Merci.
Ça va ?
Ouais.
Ça vous semble clair ?
Ouais.
Vous avez tout ce qu'il vous faut ?
Tout.
Du coup, peut-être qu'on se croisera.
Alors,
ah, vous serez là ?
Ouais.
Ah, super, ok, génial. Vous voulez que je vous raccompagne ?
Non.
Ça va aller ?
Merci. Non, il y a 4000 personnes.
Ouais, cool. Ah, ils sont pas 4000, c'est le soir. Venez, au revoir. Anaïs et Virginie vous disent au revoir. Voilà. Vous avez vu, je n'ai pas inventé, hein, je ne parlais pas tout seul à des gens imaginaires. Hein. Il y avait vraiment des gens dans cette pièce. Quoi. Merci à toutes les deux.
Merci.
J'espère que c'était compréhensible, ça, vous, tout ce qu'il vous faut. Rentrez bien. Allez vous reposer. C'est fou, ces journalistes qui travaillent tout le temps. Là. C'est incroyable. À vendredi.
À vendredi. Hein. Merci.
Salut. Ah, tout le monde vous dit au revoir. Hein. Ouais, tout le monde vous dit au revoir. Il faut que vous ouvriez votre chaîne Twitch, me dit-on.
Ah, commencera.
Bon, merci les amis en tout cas d'être là, c'est adorable. Voilà. Maintenant, on va lire tous les articles dont je vous ai parlé. Il y a du client qui dit « C'est bon, elles sont parties, personne ne regarde, donc tu peux lancer The Witcher 3 ?» Ne me tentez pas. Il faut que je résiste à l'appel du gaming. N'oubliez pas que je suis aussi journaliste. Il faut aussi que je vous parle. Il faut aussi que je vous parle d'infos. Voilà. Et puis 22h. Non, on va pas pouvoir lancer un petit stream de Rocket League ce soir. Ça fera trop. Si elles partent, qui tient la webcam? Mais la webcam, elle tient tout seul. Vous savez bien, les amis. Vous savez bien. On y va. On se lit ces petits articles. Objectif 23h. Non, ça sent plutôt objectif minuit. On va se faire un petit stream jusqu'à minuit quand même. Hein? On fait ça? Allez, c'est parti. Je vous remets les articles. Lisons donc notre ami. Lisons et parlons d'abord de cette marche contre l'antisémitisme. C'est une marche citoyenne organisée dimanche à l'appel, je vous le disais, de la présidente de l'Assemblée et du président du Sénat. Ça me semble une info assez importante à évoquer. Je lis l'article du Parisien, page 6, ce mercredi matin. La présidente de l'Assemblée, qui s'appelle Yaël Braun-Pivet, et son homologue du Sénat, Gérard Larcher, ont appelé à une manif à Paris, où ce sera dimanche, entraînant, et on va essayer de comprendre pourquoi, un rejet brutal de Jean-Luc Mélenchon. L'initiative a été imaginée lundi, nous raconte le Parisien, au cours d'un déjeuner entre les présidents des deux chambres, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, alors que les actes antisémites se sont multipliés dans le pays depuis l'attaque terroriste du Hamas. Normalement, sur cette phrase, vous devez avoir dans le chat des commentaires qui vont pop en mode « Comment ça, une hausse des actes antisémites en France depuis les attentats du Hamas, les attaques du Hamas ?» Est-ce qu'on est sûr de ça? Oui, a priori, il y a des chiffres, on va en parler. Dans une tribune publiée par nos confrères du Figaro, on ira voir cette tribune puisque je l'ai, elle est ici, le Parisien nous explique que les deux responsables politiques appellent tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de notre République à participer dimanche donc à une grande marche civique contre l'antisémitisme. Un appel à la concorde nationale qui n'a pas fait l'unanimité, dès mardi soir, donc dès hier soir, la figure de proue des insoumis, Jean-Luc Mélenchon, a annoncé sur le réseau social X, Twitter, qu'il ne s'associerait pas à l'événement. En des termes abrupts, les amis du... Écoutez bien ces mots. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont le rendez-vous. Donc il est assez simple de décrypter les propos de Jean-Luc Mélenchon. Pour le leader de la France insoumise, les gens qui appellent à cette marche contre l'antisémitisme sont des soutiens inconditionnels du massacre, comprenez des bombardements de l'armée israélienne contre la bande de Gaza, notamment contre la population civile de Gaza, et qui font des milliers de morts. Est-ce que dénoncer la hausse des actes antisémites en France, c'est soutenir les bombardements israéliens contre la population civile de Gaza? Ben ça débat dans le chat. Voilà. Kenner dit il a raison. Sachi me dit c'est n'importe quoi. Mélenchon fait plus de mal que de bien à la gauche, c'est pas possible, me dit Quentin. À vous de vous faire votre sentiment, votre opinion là-dessus. Est-ce que soutenir une marche contre la hausse des actes antisémites en France est un soutien à l'armée israélienne qui frappe aveuglément les civils? Est-ce que ça n'est pas deux choses différentes? Est-ce que ça n'est pas deux choses différentes? Bon. Ce sont ces mots, hein. Les amis du soutien inconditionnel au massacre sont des mots extrêmement forts. Ont leur rendez-vous. C'est ce qu'a déclaré Jean-Luc Mélenchon. Quelqu'un me dit, c'est intéressant, une marche pour la paix serait plus sensée. Non, c'est autre chose. Là, c'est une marche pour dénoncer la hausse des actes antisémites en France. Et on va voir pourquoi d'ailleurs, quelle est la motivation, l'explication du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée pour appeler aujourd'hui, non pas une marche pour la paix, effectivement, comme tu le dis, mais une marche contre l'antisémitisme. La réaction de Mélenchon est indigne, dangereuse, mais hélas, n'est pas surprenante. Qui dit ça? C'est Olivier Véran, qui est le porte-parole du gouvernement. Si on avait voulu que Mélenchon défile dimanche, dit-il, on aurait appelé à manifester pour la division et pour la violence. Là, il serait venu. L'unité de la nation, la lutte contre l'antisémitisme, il pense que c'est électoralement mauvais pour lui. On l'a définitivement perdu. Donc ça part en polémique politique. Le Rassemblement national sera présent à cette manifestation contre l'antisémitisme. C'est à noter quand vous connaissez l'histoire de ce parti, le RN, anciennement FN, les prises de position certains de ses responsables au cours de l'histoire du RN et du FN, ne serait-ce que de Jean-Marie Le Pen, l'ancien président du FN, avec des jeux de mots surprenants sur la question juive par exemple, on va pas faire toute l'histoire de l'extrême droite ici, le Rassemblement National sera présent dimanche. Nous répondrons présent, a déclaré sur Twitter le président du parti Jordan Bardella, le RN, qui fait savoir que Marine Le Pen sera aussi présente. Certains diront que cette marche ne se penche que sur une partie du problème, l'antisémitisme. Quelqu'un disait tout à l'heure, pourquoi on ne ferait pas plutôt, dans le chat, j'ai trouvé ça pertinent comme question, pourquoi ne pas faire plutôt une marche pour la paix ? Bon, déjà, ce n'est pas la même chose. Moi, je pense qu'il faut dénoncer avec force les actes antisémites en France et la hausse des actes antisémites. Après, rien n'empêche, par exemple, de faire une marche pour la paix et pour dénoncer les actes antisémites. On aurait pu faire ça. Mais là, ce n'est pas le cas. Alors justement, il y a une tentative d'explication. Certains diront que cette marche ne se penche que sur une partie du problème, l'antisémitisme, mais c'est le problème numéro un sur notre territoire. Qui dit ça ? C'est un ministre du gouvernement, voilà, qui n'est pas cité. Certaines figures de la majorité ont tout de même appelé à ne pas appuyer la stratégie de dédiabolisation du RN. Je m'arrête sur cette phrase. Et après, je vais vous lire parce que je vois plein de réactions intéressantes. Certains diront que cette marche ne se penche que sur une partie du problème, hein, l'antisémitisme. Mais c'est le problème numéro un sur notre territoire. Qu'est-ce que veut dire ce ministre ? J'essaie de décrypter ces mots. Aujourd'hui, on assiste en France à quoi ? En France, à quoi assiste-t-on en France ? D'après les chiffres. On va évoquer les chiffres, je les ai quelque part. On assiste à une hausse nette des actes antisémites depuis les attentats du Hamas, depuis cette séquence ultra-violente-là. On ne note pas aujourd'hui une hausse des actes anti-musulmans en France. Voilà. C'est ça que dit le ministre. Il dit, certains diront que cette marche ne se penche que sur une partie du problème de l'antisémitisme, mais c'est le problème numéro un sur notre territoire. Je pense que c'est ça que veut dire ce ministre. Certaines figures de la majorité ont tout de même appelé à ne pas appuyer la stratégie de dédiabolisation du RN. Bon, est-ce que cette participation à cette marche contre l'antisémitisme est une nouvelle étape dans le mouvement de dédiabolisation du RN ? Bon, c'est une question qui mérite d'être levée. Je vais vous lire, hein, je ne vous ignore pas. Hein. Je finis juste cet article du Parisien. J'appelle solennellement les organisateurs ainsi que les partis politiques qui participeront à ne pas être les complices de la banalisation d'un parti fondé par des antisémites, a écrit par exemple le président du parti Renaissance, Stéphane Séjourné, puisque c'est un parti politique, c'est aussi son histoire. Alors je sais que certains en France et certains d'entre vous estiment, c'est leur opinion, que le RN n'a rien à voir avec le FN. Ou n'a plus grand-chose à voir. Que le RN, qu'on ne devrait plus qualifier le RN de parti d'extrême droite. Que c'est un parti qui n'est plus raciste, un parti qui n'est plus antisémite. Il faut distinguer le RN du FN et de ce que ce parti a été dans le passé. Ça, c'est un avis, c'est une opinion. Je ne cache pas, mais ça n'est que mon opinion, et ça ne vaut que ça, que je ne suis pas d'accord tout à fait avec cette analyse. Et par exemple, Stéphane Séjourné, qui est le président du parti Renaissance, rappelle que ce parti, donc le FN, le RN ex-FN, a été fondé effectivement par des antisémites. Lequel prévient Stéphane Séjourné qu'il ne défilera pas derrière la même banderole d'ailleurs. La question d'une... Attendez, je vois un message d'Anaïs, j'espère qu'elle n'a pas oublié un truc. Non, c'est cool. Tout va bien. Je vérifie les derniers textos du soir pour les émissions de demain. Ok. Je finis l'article. La question d'une présence ou non des socialistes à la marche, par exemple, hein, est-ce que les socialistes devaient participer à cette marche de dimanche, a été très discutée au bureau national du PS, qui a finalement opté pour un entre-deux en appelant à participer à la marche tout en jugeant la participation du Rassemblement National illégitime. Chez les communistes, le débat devrait être tranché par le patron Fabien Roussel, dont on a dans la décision. Il y a un cadre du PC, du Parti communiste, qui a fait savoir aux Parisiens « Je ne vois pas comment nous pourrions ne pas participer à cette marche ». Voilà pour la position de la gauche. Vous avez la position du PC, la position du PS, notamment la position de Jean-Luc Mélenchon, qui lui dénonce cette marche, estimant que c'est une marche de soutien aux frappes, aux bombardements de l'armée israélienne contre les populations civiles de la bande de Gaza. Sed Yomi, merci pour le 5e mois. Red Metal 31, merci pour le 7e mois. Casus Smile, merci pour le 6e mois. Et je vous lis. « Midi 45, pourquoi ne pas faire des manifestations pour toutes les formes de haine? Je ne vous dis pas mon avis, j'essaie de me mettre dans la tête de ceux qui ont lancé cette marche contre l'antisémitisme de dimanche. En fait, manifestement, c'est une marche qui s'inquiète de ce qui se passe actuellement en France. Et ce qui se passe actuellement en France, ce n'est pas une explosion de toutes les haines. Il n'y a pas d'explosion actuellement de la haine anti-musulmane en France. En tout cas, ça n'est pas documenté, il n'y a pas de chiffres là-dessus. C'est une explosion des manifestations d'antisémitisme. Du coup, cette manif dit, ben, nous on dénonce ce qui est en train de se passer là, autour de la communauté juive en France. Donc il ne s'agit pas de dénoncer toutes les haines, parce qu'il n'y a pas de hausse de la haine anti-musulmane en France à ce jour. C'est ce que disent en gros les gens qui appellent cette manif. Dark Zonzon me dit que depuis les attentats du Hamas, il y a aussi une très forte augmentation de l'islamophobie et qu'il y a des chiffres. Balance-moi. Moi, je suis toujours prêt à manger mon chapeau et à dire que je me trompe ou que ceux que je lis se trompent. Balance-moi les infos, balance-moi les articles, balance-moi les chiffres, quels qu'ils soient, les sources, on ira voir. Voilà. Tu peux pas coller des liens dans le chat, mais tu peux tout à fait passer par les modérateurs ou m'envoyer un message en DM sur Twitter ou sur Twitch et je le lirai, bien sûr. Donc, mais il me faut des sources, il me faut des infos, bien sûr. Ah, ça c'est autre chose. Ah, moi je suis d'accord. Il y a deux qui disent les marches contre les massacres de Palestiniens ont été interdites. Ouais, voilà. Plus les dernières, mais les premières, oui. Et c'est une connerie monumentale. Tu n'as pas à interdire des marches de soutien au peuple palestinien. Voilà. On en a beaucoup parlé ici. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, interdire démarche de soutien au peuple palestinien qui est une décision politique et décision d'un État n'est pas une manifestation de la hausse des violences anti-musulmanes de notre pays. Là, on parle de violences qui viennent des citoyens, bien sûr, vous l'avez compris. Je vous lis. C'est un débat important, mais on essaie d'en parler de façon chill. Hein. Je vous lis. Il y a beaucoup de messages, j'en rate plein, je suis désolé. Oui, les amendes de 150 euros, je suis au courant de tout ça, hein. Des interdictions des manifs de soutien aux Palestiniens, et je les condamne, hein. Mais ce n'est pas une hausse des actes anti-musulmans en France, hein. C'est condamnable, mais ce n'est pas la même chose. Là, on parle d'agression, on parle d'insultes contre les juifs en France, les Français de confession juive, a priori, mais peut-être que demain on aura des chiffres qui disent le contraire, on n'a pas une hausse des actes anti-musulmans en France. Les mots sont importants, hein. Je parle d'actes anti-musulmans, hein. Je vous lis, hein, je vous lis. Mais il y a GMX qui nous rappelle le bilan monstrueux des morts civiles palestiniens dans la bande de Gaza qui nous rappelle le bilan. Il dit stop le baratin. Mais mon ami, je suis d'accord avec toi, on ne cesse ici de dénoncer les monstruosités des deux camps, les attentats du Hamas comme les frappes aveugles de l'armée israélienne contre les civils, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le débat qu'on a là maintenant? Il faut te concentrer, GMX, on est en train de parler de la hausse des actes antisémites en France. Tu peux pas faire comme si j'avais pas fait 1000 streams sur la question palestinienne. Tape-toi tous les replays avant de tout mélanger, mon ami. Je te le dis avec beaucoup de gentillesse. Il faut te concentrer un petit peu. Bah, tu peux pas venir sur 5 minutes de stream. Faut que tu tapes les dizaines d'heures que j'ai fait depuis les attentats du Hamas. T'es obligé. C'est ce que tu peux pas résumer le traitement de l'actualité au Proche-Orient par les 5 minutes de stream sur lesquelles tu viens de tomber, hein, mon chouchou. Caldician dit, c'est intéressant ça. Je me trompe peut-être. Mais j'ai aussi la sensation que les médias parlent davantage des morts israéliens que des morts palestiniens, qui sont pourtant bien plus nombreux à l'heure actuelle à cause des innombrables bombardements. Bon, Calcidian, je pense que tu es pas un habitué de cette chaîne, mais tu saurais, si tu l'étais, que je pense que tu as raison pour partie. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un gros consommateur de l'actualité sur Internet, je ne suis pas un gros consommateur de l'actualité sur, à la télé, voilà. Même si j'y ai fait beaucoup de choses. Moi, je pense que la meilleure source d'information en France aujourd'hui, c'est la presse écrite, c'est la presse quotidienne. Voilà. Et moi, je peux t'assurer que depuis les attentats du Hamas, je lis quotidiennement tous les journaux, l'ensemble des journaux nationaux. Le Monde, Le Parisien, Libération, Le Figaro, L'Opinion, L'Humanité, Les Échos, La Croix, l'UMA, j'en oublie peut-être. Et moi, j'ai le sentiment que ces médias-là, pas les médias, pas tous les médias. Ces médias-là, les médias que moi je vous lis, ont un traitement qui est un traitement assez équilibré, avec des pages et des pages sur les horreurs du Hamas et des pages et des pages et des pages sur l'horreur qui est en train de se passer dans la bande de Gaza aussi avec les frappes israéliennes. Voilà, ça c'est la presse écrite. Après, moi je suis pas là pour défendre tous les médias. Hein. Si effectivement certains médias focusent plus sur les morts israéliens que les morts palestiniens, pour moi c'est une erreur, mais je suis pas là pour, je suis pas l'avocat des médias. Après, c'est à vous, en tant que citoyen, de vous faire votre opinion sur ce qu'est un média de qualité et ce que n'est pas un média de qualité. Moi, je ne suis pas là pour défendre tous les médias. Là, par exemple, moi, je ne regarde pas le CI, pas parce que c'est pas une bonne chaîne, mais parce que j'ai pas le temps. Et il y a Colt qui me dit, en audiovisuel, je trouve que le CI a couvert d'une bonne façon les événements. Salut Jojoba, bonne nuit à toi. Oui, t'as raison, il y a Jolio qui dit c'est quand même fascinant cette importation du conflit chez nous. Oui, c'est je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est une question. Attends, est-ce que j'ai des messages? Je vais aller voir. J'ai invité quelqu'un à m'envoyer un DM sur Twitch. Sur Twitch, j'ai rien, ou sur Twitter. Pour me donner. Quelqu'un me disait, mais il y a une hausse des actes anti-musulmans en France aujourd'hui depuis les attentats du Hamas. Et donc je dis, envoie-moi les chiffres, envoie-moi les articles. Moi, je suis prêt à manger mon chapeau et à me tromper. Mais j'ai pas ton message. J'ai pas de message sur Twitch, sur Twitter, sur X, et j'ai pas de DM sur Twitch. Pas de chuchotement, comme on dit. Envoie-moi, hein. Moi, je suis là pour me tromper aussi hein, et de dire bah non, je vous ai raconté de la merde. Hein. Et on est là ici pour s'échanger des informations. Hein. Il m'envoie ça sur Insta ? Ok, pardon, je vais sur Insta. Ah ouais, mais il y a trop de raisons. Hein. Attends, c'est parti sur Insta. C'est important. Hein. Moi, j'émets des infos que je trouve dans les journaux. Et puis, de temps en temps, on se dit bah non, en fait, hein, ils sont trompés. Hein. Ou je me suis trompé. Hein. Allez, hop, je vais dans les demandes. Tiens, je l'ai peut-être. Ah merci, je l'ai. Alors. Je lis, Léo m'envoie un message donc sur Insta, salut Sam, tiens une source concernant la hausse des actes anti-musulmans. Bah, attends, je vais l'ouvrir sur Insta, c'est un article de BFM. On va le lire ensemble, hein. Moi j'appelle ça l'info augmentée, hein. J'émets des infos, vous émettez des infos, on réfléchit, on regarde ensemble, c'est ça qui est intéressant. Je suis pas connecté à Insta ici. Bah attends, je vais chercher l'article sur Internet, j'ai le titre. Ça va être plus rapide. Alors, mon ami Google, le titre c'est « La grande mosquée de Paris dénonce la libération progressive d'une parole anti-musulman ». Dénonce une quoi ? Une libération progressive. Voilà. Alors, je tape BFM et je vais trouver l'article en 2-2. Voilà, je l'ai. Un article publié il y a combien de jours ? 5 jours, je crois. Le 13 octobre. 13 octobre. Alors, 13 octobre, c'était quasiment un mois. Lisons. Je vous mets ça. Pof. Voilà. Donc, c'est la Grande Mosquée de Paris qui dénonce la libération progressive d'une parole anti-musulman. C'est intéressant, la date. Pourquoi j'aurais la date ? Parce que les attentats du Hamas datent de quand ? Du 7 octobre ? Je ne sais plus. Corrigez-moi. Est-ce que les attentats du Hamas, c'est 7 octobre ? C'est ça ? J'ai ça en tête. Vous aussi, vous dites ça ? 7 octobre. Donc là, on a un article du 13 octobre. Donc on est une semaine après les attentats. La grande mosquée de Paris s'est inquiétée contre la libération progressive d'une parole raciste et haineuse contre les musulmans de France et appelle les pouvoirs publics à agir. Alors, quels sont ces actes et ces discours portant atteinte aux musulmans en France dont parle le recteur de la mosquée? Là, on a un communiqué. Bon, alors, lisons le communiqué. Quoi, 2022? Non, pas 2022 quand même, si. Attendez, c'est 2022? Non, 2023, c'est 2023. Vous faites bien de vous interroger, vous avez raison. Non, c'est 2023. C'était la photo qui est de 2022. Mais il y a Fromp qui n'est pas concentré. Dit, comment l'article du 13 octobre peut parler du 7 novembre? Les attentats, les amis, c'était le 7 octobre. Le 7 novembre, c'était hier, chouchou. Concentrez-vous, ça va bien se passer. Donc, la grande mosquée de Paris est extrêmement préoccupée par la forte montée des actes et des discours portant atteinte à des groupes, des personnes, des biens en raison de leur appartenance religieuse. Quelle qu'elle soit en France, vous voyez. Donc, manifestement, la grande mosquée de Paris parle aussi des actes antisémites. C'est intéressant. Ces derniers jours encore, des propos scandaleux et répréhensibles ont été tenus par certaines personnalités politiques et médiatiques dans le but de jeter l'opprobre sur nos concitoyens musulmans et de les exclure de la communauté nationale. Ouais, alors j'entends le communiqué qui parle d'une augmentation des actes et des discours anti-musulmans, mais ne donne pas d'exemple. C'est un peu embêtant. On aimerait en savoir un peu plus. Manifestement, il s'agit plus de dénoncer les propos de certains politiques ou personnalités médiatiques. Ah, donc là, c'est déjà autre chose. Donc, certains éditorialistes, par exemple, hein, c'est ce que je comprends. Tiens, ben voilà. Arnaud Klarsfeld, oui, ça, je vois très bien. Mercredi déjà, le Conseil français du culte musulman avait dénoncé des propos de l'avocat Arnaud Klarsfeld visant une minorité musulmane qui est agissante. Ça, je vois ce qu'avait dit Arnaud Klarsfeld. Il avait dit que les musulmans de France étaient souvent des... Il y avait beaucoup de musulmans parmi les ouvriers du bâtiment, avait dit monsieur Maître Klarsfeld, et du coup, avait accès à des explosifs. Ce genre de propos, on va dire assez... bon, je ne vais pas les qualifier parce que je vais être brutal. D'ailleurs, l'ARCOM a été saisi à propos de ces propos. Voilà. Voilà. Ok, donc en fait, l'internaute, bien intentionné d'ailleurs, qui me dit « Non, Sam, il existe des preuves, des chiffres, c'est ce que tu nous disais dans le chat, de la hausse des actes anti-musulmans en France depuis le Hamas, on voit bien qu'il s'agit davantage de propos tenus par certains politiques et certains éditorialistes sur les chaînes info. » Bon, après, si vous voulez vous informer sur les chaînes info, c'est votre problème, mais à mon avis, c'est pas la meilleure idée du siècle, quoi. Concernant effectivement une forme de discrimination musulmane, là je suis d'accord, ça existe. Mais la hausse des actes antisémites dont on parle, c'est autre chose en fait. Ce ne sont pas des propos tenus en plateau, hein, c'est plutôt des actes dans la rue, des mots, des violences, des menaces, etc. Quoi. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est intéressant ce débat. Je vais aller vous montrer dans un instant la tribune justement publiée par le Figaro ce matin du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée qui ont lancé cet appel à cette marche contre l'antisémitisme dimanche. Kalindi, merci beaucoup pour le 27e mois d'abonnement. C'est adorable. Alors, je vous lis. Je n'ai pas la réponse, mais c'est une bonne question. Shifumi, est-ce que cette exportation du conflit concerne également d'autres pays européens? Je n'ai pas trouvé d'article là-dessus, mais je pense que dans les prochains jours, j'en trouverai sûrement. Je vous lis. Hein. Le sujet est sensible, mais je trouve qu'on arrive ici à en parler de façon intelligente et civilisée. Et là, je parle de vous. Je trouve que C'est le pari sur cette chaîne, on parle de tout, on arrive à en parler, mais en faisant attention aux mots qu'on utilise, en ne montrant pas de violence entre nous malgré nos différences. On s'oppose, on dit qu'on n'est pas d'accord, on essaie de confronter nos analyses, mais on le fait de façon civilisée, et c'est ce que je vois dans le chat, malgré ce sujet qui est sans doute un des sujets les plus épidermiques qui soit. Oui, Flèche Azur disait, c'est pas vraiment des données chiffrées, oui, je suis assez d'accord. Ilorenes dit, trop de fatigue à cette heure-ci pour le chat. Moi, je trouve que le chat, il est cool, hein. Ça va, hein. C'est des sujets qui sont compliqués, hein. Ça va, hein. On n'est pas sur Twitter ici, hein. Ça se voit. Hein. Ouais, sur l'Italie, ça serait intéressant, en vrai. Sarah a raison. Est-ce qu'il y a une montée des actes anti-musulmans ou antisémites en Italie? J'ai vu passer vite fait des trucs, j'essaierai de vous trouver un truc là-dessus. Alors, lisons si vous voulez, on va avancer un petit peu. L'appel, publié ce matin par le Figaro, peut-être qu'on va apprendre d'autres choses. L'appel du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale sur cette manifestation contre l'antisémitisme, la hausse de l'antisémitisme en France. Donc, manif de dimanche. Pour la République et contre l'antisémitisme, marchons. Depuis l'attaque terroriste perpétrée en Israël par le Hamas le 7 octobre dernier, un massacre d'une ignominie jamais égalée depuis la Shoah, qui a causé la mort de 40 de nos compatriotes, les actes antisémites se multiplient dangereusement dans notre pays. En 4 semaines à peine, plus de 1000 faits. Alors, là, il y a des chiffres. En 4 semaines à peine, affirme donc le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée, plus de 1000 faits ont été enregistrés, soit deux fois plus qu'au cours de toute l'année 2022. Alors, acte antisémite, qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas défini ici, mais j'imagine violence, insulte, tag, etc. Donc, selon cette source-là, 1000 faits en 4 semaines, c'est-à-dire deux fois plus que l'année précédente à la même période. Cela se traduit, c'est caractérisé sur notre sol par des insultes, par des menaces, des violences contre nos compatriotes de confession juive. La peur s'installe et risque même de se banaliser si nous ne réagissons pas. Un sursaut s'impose pour manifester clairement que la France n'accepte pas l'antisémitisme et que les Français ne se résignent pas et ne se résigneront jamais à la facilité des haines, la fatalité, des haines. L'antisémitisme, comme toutes les haines, est un symptôme des maux de notre société. Quand il progresse, monte avec lui le danger. Voilà, je vous lis un petit passage de cette tribune. Et je vous lis là-dessus. Voilà. Donc là, on parle de la hausse des faits antisémites en France est sourcée, documentée. Voilà. En gros, ce serait multiplié par deux par rapport à l'année dernière. Attention. Attention au misclic de la modération. Attention, ici, ce qui est modéré ici, c'est les propos extrémistes, racistes, antisémites, discriminants, injurieux. Je vois un message de King of quelque chose que je vais le relire, mais je suis peut-être passé à quelque chose, mais. Je pense que c'est un misclic qui a fait supprimer ce message. Je lis. À mon avis, on ne trouvera pas de preuves ou de chiffres sur la montée du racisme anti-musulman. Cependant, la double mesure du traitement des morts palestiniens sur la durée de tout le conflit par rapport aux morts israéliens après l'attentat du Hamas, dans les médias, hein, on en parlait tout à l'heure, dans certains médias, prouve à mon avis à quel point l'opinion publique française a fait libérer une parole anti-musulman, démocratisée, antisémitisme couscous. C'est une expression qui a été utilisée en direct à l'antenne. C'est vrai, je l'ai lu à l'instant. Je pense que c'est un misclic parce que je ne vois pas dans ce message dans le chat ce qui est. C'est une prise de position avec laquelle on est d'accord ou pas d'accord, mais qui est exprimée correctement et qui n'a rien de radical en fait. Je pense que c'est une erreur. Toutes nos excuses. « Alors voilà, et d'ailleurs le modo l'indique, misclic et j'arrive pas à annuler. Je m'en doutais, je m'en doutais. Hein, on a une modération de qualité ici, donc toutes nos excuses, on n'arrive pas, on n'arrive pas à annuler la suppression de ton message, mais effectivement c'est un misclic. Ah, c'est juste qu'il a posté son message trois fois. Ça, c'est, effectivement, c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais, je comprends ce que dit Pat Sushi. Bien sûr qu'il faut condamner l'antisémitisme, mais une marche dans ce contexte de bombardement massif d'Israël qui provoque une des pires crises humanitaires à Gaza, je ne suis pas sûr que c'est l'effet escompté et ça peut avoir un effet contre-productif. J'entends ce que tu dis. C'est intéressant. Et Sarah, les misclics, tu en fais, tu vas en refaire et je suis le premier à en faire. Demande au modo, le roi du misclic, c'est moi. Hein. Parfois, je veux lire un message et bam, je banne la personne. Donc, fais-toi plaisir, hein, fais-toi plaisir. Le champion du misclic, c'est moi. Hein. Et un immense merci de nous rejoindre, Sarah. Je vous lis. Oui, oui, David a raison. Certains ont parlé, vous savez, des tags, des pochoirs les, avec les la croix. Comment on dit l'étoile de David. Merci. Il y a une. Je vous en parle pas moi. Exprès, parce qu'il y a une enquête qui est en cours, vous savez, hein. Donc quand on a vu ces pochoirs, la croix de David là, sur des bâtiments, les médias, certains médias, certaines personnalités politiques, très très vite ont dit, voilà, c'est la preuve que l'antisémitisme est en train d'exploser en France, et puis, moi j'ai lu ça avec beaucoup d'attention, et puis j'ai vu aussi que dans l'enquête, il y avait des questions qui se posaient, donc on ne savait pas, une enquête était en cours, c'était intéressant de savoir qui avait commis ces pochoirs. Voilà. Et puis, on est en train de se rendre compte, au travers des articles parus ces dernières heures, qu'il pourrait s'agir d'une manipulation venue de l'étranger, venue, en l'occurrence, de la Russie. Voilà. Là, on va. C'est une démonstration de ce dont je vous parle assez souvent, c'est-à-dire qu'en matière d'information, il ne faut pas aller trop vite. Il faut prendre son temps et parfois il faut ne pas céder à cette espèce de course à la rapidité qui est de donner les informations avant tout le monde sous prétexte que ça vous rend plus malin ou plus intelligent de savoir ou de croire savoir avant tout le monde. Plus on va vite en information et plus on a des chances de se tromper. C'est un truc que je vous explique assez souvent. Donc effectivement, il y a une enquête qui est en cours parce qu'en fait, il semblerait qu'on ait identifié les gens qui serait un couple, peut-être, on va mettre plein de conditionnels de Moldave qui seraient derrière ces tags, là, qu'on a vite qualifié d'antisémites, et d'un couple de Moldave avec des gestes qui auraient été commandités depuis la Russie. À vérifier, l'enquête est en cours, mais sur cette question, par exemple, moi je n'en parle pas parce que j'attends en fait les conclusions de l'enquête sans savoir un petit peu plus, savoir ce qui se passe exactement. En tout cas, moi je veux bien parler d'actes antisémites à un moment, mais à minima, il faut au moins qu'on ait interpellé les personnes ou qu'on ait une piste sérieuse pour nous dire « bah oui, oui, c'est des actes antisémites, la preuve quoi !» C'est ça l'info, hein, c'est ça. C'est obligé de vérifier, de sourcer et de douter, et de douter. N'allez pas trop vite non plus, ne partez pas dans l'autre sens. Hein. Je vois des petits commentaires un peu ironiques. Ça fait longtemps que c'était pas les Russes. Et les Russes sont pas responsables de l'extinction des dinosaures aussi. Personne n'a dit les Russes. Hein. On a parlé avec beaucoup de prudence de deux Moldaves qui auraient été payés par quelqu'un en Russie. Qui en Russie? Par le pouvoir russe? Personne l'a dit. Le gouvernement russe? Un parti d'opposition russe? On ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas, donc on ne commente pas. C'est pas la peine de partir en mode « Ah, c'est encore les Russes hein. ». les mêmes vont peut-être partir dans un moment pour nous dire que les Ukrainiens sont les agresseurs et qu'en ce moment, ce sont les soldats russes qui protègent le peuple russe des dangers ukrainiens. Après, c'est la suite de ce commentaire sur les Russes qui sont aussi responsables de la disparition des dinosaures. Vous voulez aller vers ça ? Soyez un petit peu cohérent, un petit peu rigoureux, quoi. Est-ce que sourcer s'est trompé ? Je valide la blague. Voilà. Prudence dans la vérification des informations. Tiens, on parlait de l'Ukraine, je ne l'ai pas fait exprès. Vous êtes plusieurs à dire ces derniers temps, c'est quand même dommage que ce qui se passe au Proche-Orient ait fait oublier la guerre en Ukraine. Et vous avez raison. Pour partie, certains médias, pas ceux que je consomme, ont effectivement un peu oublié la guerre en Ukraine qui se poursuit par ailleurs. Pas ceux que je lis, puisque la presse écrite continue à vous parler régulièrement, y compris en une. Mettre une actu en une, c'est estimer qu'elle est essentielle. Ce matin, la une de Libération, c'était justement l'Ukraine. Ukraine, la guerre figée. Ceux qui suivent cette chaîne bon, vont rien apprendre, puisque ça fait quelques jours déjà que je vous lis pas mal de papiers sur ce front qui ne bouge pas, malgré les moyens militaires, matériels et humains mis de part et d'autre. 5 mois après le lancement de sa contre-offensive, la fameuse contre-offensive ukrainienne qui devait récupérer les terres prises par les Russes, eh bien Kiev n'a repris que quelques kilomètres carrés de son territoire. Manquant toujours de matériel militaire face à l'armée russe, l'Ukraine cherche la stratégie qui la sortira du bourbier. L'Ukraine enterre la guerre éclair, donc c'est vrai que l'espoir de voir l'armée ukrainienne reconquérir rapidement les terres perdues eh bien, a quasiment disparu. Après avoir espéré une riposte rapide et efficace, l'Ukraine est contrainte de se rendre à l'évidence. Le conflit s'enlise et mute en guerre longue, à force presque égale, guerre longue, mot important, sur le front autour de Zelensky, Volodymyr Zelensky, le président russe, ukrainien, fourchage intéressant, de nouvelles stratégies se dessine. Le constat est clinique. 5 mois après l'accélération des opérations dans les régions du sud-est, l'Ukraine n'a repris qu'à peine 370 km². En parallèle, grâce aux missiles franco-britanniques Scalp, EG et Storm Shadow, ainsi qu'à l'arrivée d'une poignée d'attaques MS américains, l'armée ukrainienne a infligé des coups considérables à la marine et aux forces aériennes russes, rompant le blocus de la mer Noire. Une vraie réussite. Donc d'un côté, un front terrestre qui ne bouge pas. En revanche, des pertes assez importantes côté russe, du côté de la marine et des forces aériennes. Ça, c'est le constat militaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas. Colt dit ça va finir en statu quo, j'ai l'impression, pour l'instant en tout cas ça ne bouge pas beaucoup. Et on a une interview évoquée par Libération du chef des armées ukrainiennes qui reconnaît actuellement une impasse sur le terrain militaire. Le général ukrainien Valery Zalounji a concédé dans une interview à The Economist que la contre-offensive n'atteindra pas ses objectifs, donc c'est une interview à l'hebdomadaire anglais The Economist. La faute aux insuffisances technologiques de l'armée, la faute aux livraisons insuffisantes ou arrivées trop tard des Occidentaux à l'armée ukrainienne, dit ce chef ukrainien, mais aussi, dit Libération, à des insuffisances, des difficultés d'organisation de l'armée ukrainienne. Lisons, on va comprendre ce truc, c'est assez intéressant. Il n'y aura probablement pas de percée profonde, concède le gradé, entérinant les déconvenus rencontrés par ces hommes qui n'ont avancé que de 17 km en 5 mois, loin des objectifs énoncés cet été par Kiev, qui espérait réaliser des percées décisives vers le sud et l'est pour reconquérir les territoires envahis l'année précédente par la Russie. L'armée ukrainienne se heurte à quoi ? On en a déjà parlé ici. Aux tranchées, aux champs de mines, aux barrages anti-chars qui constituent les lignes de défense ennemies, donc russes, et s'enlise dans une guerre de position meurtrière. Ce qui a surpris l'armée ukrainienne, c'est que l'armée russe a profité de la pause dans le conflit provoqué par les saisons froides, les météos, pour construire des lignes de défense extrêmement efficaces, extrêmement profondes également, contre lesquelles les offensives terrestres ukrainiennes se sont littéralement cassées les dents. On peut lire dans les propos des responsables militaires ukrainiens une critique de l'ampleur et de la temporalité du soutien militaires des pays occidentaux, qui ont pourtant fourni plus de 200 milliards d'euros de chars de combat, de véhicules blindés, d'autres armes sophistiquées, suffisant pour stopper l'invasion russe, mais pas suffisant, disent les Ukrainiens, pour reconquérir les territoires perdus, et puis qui seraient arrivés un petit peu trop tard aussi. Il y a Xafaris qui dit « On est vraiment la bonne pomme de tous les malheurs du monde. » Je ne sais pas ce que tu veux dire. Quand tu dis « On est vraiment la bonne pomme de tous les malheurs du monde », c'est quoi ? Il fallait laisser la Russie envahir l'Ukraine ? Est-ce que c'est la suite de ta phrase ou tu parles d'autre chose ? C'est ça que tu dis ? Ce serait intéressant comme hypothèse. Et après, c'est supposé que la Russie s'arrête à l'Ukraine. Après, voilà. Dis ça aux voisins de l'Ukraine... Tu vas avoir des retours assez intéressants. Ah non, je vois ce que tu dis. Ah, ça, j'ai compris, pardon. Chaque fois, on nous accuse de tous les maux du monde. Oui, c'est les accusations de. Un peu. Oui, oui, de l'armée ukrainienne de ne pas avoir les avoir assez aidés. Je comprends. Bah, ils mettent la pression sur l'Occident pour avoir plus d'armes, quoi. Ouais, après, c'est assez compréhensible, mais je vois ce que tu veux dire. Pardon, j'avais mal compris. C'est autant pour moi. La prise de parole de ce militaire ukrainien passe sous silence, en revanche, d'autres fragilités de l'armée ukrainienne. Le haut gradé esquive le problème de fond, dit Libé. La difficulté pour l'armée ukrainienne a changé de taille et de modèle. Enfin, c'est pas Libé qui le dit, c'est Vincent Touret, qui est un chargé de recherche, qui est un chercheur, en fait, pour la Fondation pour la Recherche Stratégique et spécialiste de la doctrine militaire russe. Que dit-il à propos de l'armée ukrainienne ? Sa massification rapide a dépassé ses capacités de gestion logistique et d'encadrement, la forçant à mener une bataille très méthodique, très localisée, très linéaire, on va dire un peu classique. Bonne nuit, Shifumi. Ce qui a l'avantage de limiter les pertes, mais qui conduit à faire reposer son succès sur l'attrition et le rap-feu, c'est-à-dire dans le jargon militaire que je ne maîtrise pas, le rapport de feu entre les artilleries et les protagonistes d'une guerre. Et donc, ce spécialiste des questions de stratégiques estime que peut-être que l'armée ukrainienne ne s'est pas réinventée aussi pour réussir à trouver les failles dans les lignes russes. Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui de la guerre en Ukraine. Voilà, je vous fais un petit résumé rapide. Je vais me chercher un petit verre d'eau parce que je suis un petit peu assoiffé. Merci Pakoun, c'est très gentil. Merci du soutien, du gentil message et du sub. Je vous lis un petit peu sur l'Ukraine. Alors je pense que ton message ghetto piano a été mal compris par la modération. Question, j'ai fait un compte YouTube dédié aux canaux de nouvelles. Je suis abonné aux chaînes américaines, asiatiques, arabes. Est-ce que utiliser YouTube est une mauvaise façon d'obtenir mes nouvelles ? Je pense que ton message a été supprimé parce que le moto devait penser que tu faisais la promotion de ta chaîne, mais tu ne parles pas de ta chaîne YouTube, tu parles d'un compte YouTube pour justement t'informer. Via des chaînes américaines, asiatiques et arabes, et tu nous demandes est-ce que c'est une mauvaise source d'information. Je trouve que c'est une très bonne remarque. Non, il n'y a pas de mauvaise source d'information. Il faut essayer de s'informer auprès de plein de sources différentes, de se pencher sur des regards différents sur l'actualité, et sur YouTube, si ça te permet d'accéder à des médias internationaux, s'informer sur l'actualité internationale et même française via le regard des médias internationaux, c'est très intéressant parce que tu changes justement de logiciel, tu changes de regard, c'est très intéressant ce que tu dis. Voilà, les journalistes sont humains et font des erreurs, les Samuel Etienne est humain et fait plein d'erreurs, et puis les modos aussi, d'ailleurs MMG s'excuse, ok my bad, je pense qu'MMG pensait que tu faisais la promotion de ta chaîne. Enfin, misclic. Voilà, MMG s'excuse, voilà. J'ai une qualité de modération sur cette chaîne, vous êtes les meilleurs. Je vous demande un travail de fou, modérer des débats sur l'actualité tous les jours sur des sujets aussi compliqués. Vous êtes des bêtes, vous êtes des goats, vous êtes formidables, quoi. Franchement, je le dis hyper sincèrement. Longue vie au modo, comme dit Matt Bird, exactement. Allez, je vous emmène sur la France Insoumise maintenant, avec une grosse polémique autour de Raquel Garrido, qui a été punie par son parti. Je vais me chercher un petit verre d'eau. Il comme dit Heisenberg, je cite Heisenberg, ce n'est pas forcément ma pensée, mais je cite Heisenberg quand même. Si vous restez scotché devant CNews, vous allez penser que la France est raciste, alors oui, diversifiez les sources. LFI, hop, je vous laisse 30 secondes pour aller chercher un verre d'eau, et on se penche sur LFI, parce que là je vais parler un petit peu, il me faut un petit peu d'eau. 22h53, ça va, il est tôt, la soirée ne fait que commencer, j'arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe à LFI ? Bon, on s'est tendu au sein de la NUPES, en ce moment, vous le savez, on en a déjà parlé. Et puis, c'est tendu au sein de LFI aussi. Il y a Jeff qui me dit que Raquel Garrido est l'invité demain de l'ami Jean Massier dans Backseat. On va aller tout de suite vérifier cette information, parce que quel cas c'est intéressant, effectivement, de voir ce que Raquel Garrido, qui est assez en colère contre la direction de Jean-Luc Mélenchon au sein de LFI, pourrait dire, effectivement, confirmation, regardez, je vous montre le tweet des amis de Backseat, demain à 20h dans Backseat, Backseat c'est jeudi, l'émission de Jean, effectivement sera reçue Raquel Garrido, députée LFI de Seine-Saint-Denis, et puis à 21h, l'invitée politique sera Maryse Léon, secrétaire générale de la CFDT. Alors moi j'avais vu que la patronne de la CFDT était l'invitée de Backseat, mais je n'avais pas vu pour Raquel Garrido, à mon avis ça s'est rajouté, voilà, bravo. Bravo aux amis de Backseat. On y revient justement à Raquel Garrido. Qu'est-ce qui se passe en ce moment autour de la députée LFI ? 30 ans d'insoumission, parce qu'elle a un parcours politique qui ne date pas d'hier, et 4 mois de sanctions. Elle s'est pris 4 mois de sanctions. La punition de la députée de la France Insoumise, qui pèse ses critiques envers la direction insoumise, illustre la tension croissante au sein du mouvement. Plusieurs frondeurs lui ont déclaré leur soutien. Merci David. L'hiver dernier, juste après son éviction de la direction de la France Insoumise, puisqu'elle avait déjà été virée de la direction de la France Insoumise, Raquel Garrido avertissait « Ils pensent qu'ils vont me discipliner jamais !» La députée insoumise a tenu sa promesse, puisque, assumant ses désaccords avec Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants, elle a été sanctionnée. Lundi soir, le bureau, l'instance qui regroupe une vingtaine de députés LFI, a décidé donc, puisque quelqu'un me disait « Mais c'est quoi la sanction exactement ?» a décidé que Raquel Garrido ne pourrait plus être oratrice au nom du groupe dans les travaux parlementaires pour une durée de 4 mois. Voilà la sanction. La sanction, elle ne pourra plus être oratrice au nom du groupe dans les travaux parlementaires pour une durée de 4 mois. Elle est un petit peu mise de côté du travail parlementaire du groupe LFI. L'élu de Seine-Saint-Denis qui a été entendu à 21h pendant 1h30. Il lui est reproché, le parti, non pas de défendre ses idées, ça c'est ce que dit la direction du parti, mais une accumulation d'agissements et de propos répétés qui nuisent au bon fonctionnement collectif du groupe parlementaire. Évidemment, Raquel Garrido réfute ces accusations. Deuxième page, parce que deux pages là-dessus, parce que, donc là la parole est à la défense maintenant à Madame Garrido, parce que j'ai osé, donc elle est toujours payée mais pas besoin de parler, petit Lucky enfin, mais... Oh. Une députée n'est pas payée par son parti. Elle a une indemnité qui est liée à son élection, le fait qu'elle soit élue. C'est pas parce que son parti lui interdit de parler dans le cadre du travail parlementaire de LFI que ça n'a rien à voir avec son salaire, enfin. C'est son indemnité des députés. Mais oh, dans tes yeux, oh, bossez un minimum, nom de Dieu. Je reprends. Pardon, petit Luc. Parce que j'ai osé, donc la parole à la défense, parce que j'ai osé dénoncer la communication masculiniste du député condamné pour violence conjugale, on va rappeler Adrien Quatennens, orchestré par Sophia Chikirou et soutenu par Jean-Luc Mélenchon, parce que j'ai défendu l'unité de la NUPES, du mouvement syndical et de LFI pendant le grand mouvement des retraites, alors la direction de LFI ne faisait que cliver et cliver encore. Le bureau de LFI dénonce-t-elle encore cette autoproclamée instance de discipline pour tenter, quelle immaturité, dit-elle, de régler des désaccords politiques par des mesures de coercition. Je suis humilié, je suis en colère, j'ai honte de voir cette évolution du projet politique auquel j'ai consacré 30 ans de ma vie. Voilà pour les deux versions. La direction de LFI dit que Madame Garrido prend trop souvent la parole pour dénoncer les orientations de LFI, en tout cas de la direction, et que cela nuit à l'image du parti. Et elle dit, c'est ma liberté d'expression, vous faites de la merde, je dis vous faites de la merde. Je traduis, comme ça c'est plus clair. Hein. Docteur C, merci pour ce raid, c'est adorable. Docteur Neville, c'est adorable. Tous les docteurs sont mobilisés, merci pour le quatrième mois d'abonnement, c'est gentil. Autain l'a soutenu, ben, il n'y a pas que Autain, en fait, vous savez, il y a tout un groupe d'élus LFI qui ont été mis un petit peu de côté par la direction, et Clémentine Autain, il y a Raquel Garrido, il y a aussi, comment il s'appelle ? Vous allez m'aider, Ruffin aussi, qui est un petit peu mis de côté. Voilà, bien sûr, Manon Drap précise, tu as raison, elle peut toujours s'exprimer à l'Assemblée, mais pas comme oratrice désignée par son parti. Voilà, tu as raison, c'est extrêmement clair comme ça. Oui, Alexis Corbière aussi, voilà, je cherchais. Merci à Omni Road, Alexis Corbière. Tout à fait. Merci de compléter. Est-ce que LFI est en train de se diviser ? D'après ce que je comprends de l'article de Libé, c'est une très bonne question de MG7F. D'après ce que je comprends de l'article de Libé, ce n'est pas le parti qui est divisé, mais ce sont des individualités. Les élus qu'on vient d'évoquer, Garrido, Autain, Ruffin, Corbière, qui effectivement se désolidarise de certaines prises de position, orientations stratégiques du parti, quoi. Mais est-ce que c'est une vraie scission profonde au sein même du corps militant de LFI ? Libération semble dire que non, je parle avec beaucoup de prudence. El Famigno, merci pour le quatrième mois. Oui, c'est son mari, oui, tout à fait, oui. Corbière, c'est, je crois que ils sont, c'est un couple avec Raquel Garrido. Oui. Voilà. Donc voilà pour LFI. Enfin non, ça n'est pas tout, puisque Le Figaro a publié aujourd'hui. Bon, on peut pas dire que Le Figaro soit un journal, soyons clairs, qui soit très très fan de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Et donc Le Figaro consacre une pleine page à la popularité en chute libre de Jean-Luc Mélenchon. Alors oui, c'est vrai. La popularité de Jean-Luc Mélenchon est en chute libre. Ça, c'est vrai, c'est un fait. Mais, bon, au-delà du fait, bon, c'est un sondage, qu'est-ce que valent les sondages ? Au-delà de ça, ce qui est intéressant dans l'article, c'est que Le Figaro nous explique que c'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon voit sa cote de popularité chuter très brutalement, mais parfois, il est arrivé aussi qu'elle remonte. Lisons cet article, je trouve assez intéressant. Personnalité préférée des Français en avril 2017, ça n'est pas rien quand même, personnalité préférée des Français. Le leader insoumis est désormais l'homme politique le plus rejeté par les Français. Il serait passé de l'homme politique préféré à l'homme politique le plus rejeté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aucune alternative à gauche n'émerge encore. Lisons cet article qui est assez intéressant. Alors que ses prises de position sur la situation au Proche-Orient ont suscité la polémique, on parlait de sa prise de position sur la marche contre l'antisémitisme de dimanche, et aviver les divisions au sein de la NUPES, Jean-Luc Mélenchon poursuit sa baisse dans les sondages. Il est aujourd'hui la personnalité politique la plus rejetée par les Français. De quoi faire sortir du jeu l'insoumis, s'interroge Le Figaro. La chute est brutale en tout cas. Tous instituts confondus, Jean-Luc Mélenchon dévisse. Je ne vais pas vous donner tous les instituts de sondage, mais ils sont tous d'accord là-dessus. Je vous prends l'exemple du baromètre Kantar Public et Poca Figaro Magazine, dont la cote de popularité passe de 29 à 15%. J'en ai d'autres, hein, de 35 à 17%, de 36 à 17%. Enfin voilà. C'est une très forte chute. L'Institut Odoxa interroge les Français sur la personnalité qui leur inspire le plus de rejet. En avril 2022, Mélenchon n'arrivait qu'en 15e position avec 38% de rejet. Ce taux est maintenant de 62%, ce qui en fait désormais la personnalité la plus rejetée de France devant Éric Zemmour. La phrase, elle est folle. Ce qui en fait désormais la personnalité la plus rejetée de France devant Éric Zemmour. Il est loin le temps où, au sortir de la présidentielle de 2017, il était au contraire la personnalité préférée des Français. 61% de bonnes opinions selon l'IFOP. Moi, je ne dis pas que les sondages... disent la vérité, ils ne se trompent jamais. Hein, ce sont des outils, des instruments. Parfois, ils voient juste, parfois, ils se trompent. Il y a des marges d'erreur, vous le savez. Mais par contre, quand je vois dans le chat, je ne sais plus qui disait, les sondages disent n'importe quoi sur Mélenchon, sur la baisse de sa cote de popularité. Dans ce cas-là, il faut aussi dire que les sondages se trompaient quand ils disaient que la cote de popularité était haute. Alors, on est d'accord. Sinon, ça n'a pas de sens. Sa chute, cependant, n'est pas liée aux événements les plus récents. Même si elle se poursuit, les trois quarts de ses pertes ont été enregistrées entre le printemps et l'automne 2022. La violence verbale des insoumis à l'Assemblée a terni l'image de celui qui était auréolé de sa dynamique électorale de la présidentielle et de sa capacité à fédérer la gauche. Par ses outrances, la tonalité de ses critiques contre la politique d'Israël, l'insoumis a revêtu le costume de la diabolisation autrefois portée par Jean-Marie Le Pen. C'est ouf. 71% des Français voient désormais en lui, Mélenchon, un danger pour la démocratie, sondage CSA pour CNews. Il est désormais perçu comme étant plus inquiétant, moins rassembleur, moins sympathique que Marine Le Pen. Il a même perdu sa fonction tribunicienne. Dès mars dernier, la présidente du RN incarnait mieux l'opposition à Emmanuel Macron que son leader insoumis pour les Français. Aucune autre personnalité politique française n'a connu une telle chute depuis la dernière présidentielle. Voilà. Alors ce que dit aussi l'article, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'est pas au plus haut, mais que c'est pas la première fois qu'il baisse et que après, eh bien, il était remonté très fort. Toujours selon les sondages. Donc ceux qui remettent les sondages sur la baisse, vous devez aussi les remettre en cause quand ils disent que Mélenchon monte. Il faut être logique. Le Figaro qui écrit, il serait hâtif de croire que Mélenchon est désormais disqualifié. Lors du premier quinquennat, l'effondrement avait été tout aussi spectaculaire pour Mélenchon, qui avait vu sa cote de popularité de 2017 à 2018 passer de 27 à 12 points, notamment après sa colère, vous savez, la République c'est moi, du 17 octobre 2018, il avait perdu une dizaine de points dans tous les instituts. Il avait même atteint un plus bas d'opinion favorable, 11%, qui est bien plus bas que son niveau d'aujourd'hui. Après, il y avait une remontée. Jean-Luc Mélenchon était remonté très très fort au moment de la présidentielle de 2022. Pourquoi, selon Figaro? Parce qu'il y avait une absence de, d'alternative crédible à gauche. Il avait commencé, Mélenchon, à ce moment-là, ce qui est une forme d'habileté ou de sincérité politique, je ne sais pas, à adopter, au moment de 2022, la présidentielle, un ton plus ouvert, plus consensuel, avant de bénéficier d'un réflexe de vote utile, ce qui avait entraîné après le succès de la NUPES, vous savez, aux législatives. À ce jour, mais nous sommes à 3 ans et demi de l'échéance présidentielle, ça ne veut rien dire d'évoquer les chances de tel ou tel à la présidentielle quand c'est 3 ans et demi plus tard. Mélenchon peut miser sur l'absence de concurrence sérieuse dans son camp, à gauche. Certes, son potentiel personnel chute fortement, mais personne n'en profite vraiment. Le communiste Fabien Roussel a une popularité qui n'atteint que 6%. Olivier Faure, le PS, Marine Tondelier, l'écologiste, sont respectivement à 4 et 1%. Voilà, ça c'est les intentions de vote en fait, hein, premier tour de la présidentielle. Les moins de 35 ans voteraient encore à 22% pour Mélenchon. Au sein de la galaxie insoumise, il n'y a pas non plus à ce jour d'alternative crédible sur le plan électoral. Alors qu'il se démarque de plus en plus de la ligne officielle de son parti, François Ruffin n'obtiendrait que 7% au premier tour par exemple. La moitié du score de Mélenchon. Cette photographie n'est peut-être que provisoire, mais elle aidera le déjà triple candidat à l'Élysée à prétendre qu'à gauche, il n'y a personne pour faire mieux que lui. Le Figaro dit, attention, Mélenchon n'est pas encore mort politiquement. Quoi. Zerka, merci beaucoup pour le soutien, c'est drôle. J'ai soif, j'ai couru en fait pour venir, pour rentrer de questions, je me suis un peu déshydraté. Nico Loco, bonne nuit mon ami. Je vous lis. Binaural estime que sa cote de popularité basse hier n'était pas doublée d'un rejet aussi fort et estime que là c'est quand même assez nouveau. Oui, tu as raison. Letty dit, nous dit, mine de rien, la violence verbale en politique dégrade les débats. Oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi. À un moment, la mauvaise image qu'ont les politiques en France, les politiques en sont pour partie responsables. Ce ne sont pas les seuls responsables. Les médias ont une responsabilité dans la façon dont ils présentent la politique, dont ils parlent de la politique, toujours à la recherche de la petite phrase. Enfin, toujours. Certains médias toujours à la recherche de la petite phrase, du buzz, de la polémique, du raccourci et pas de la tentative de compréhension de ce qu'il y a dans les programmes. Voilà. Les politiques sont responsables par leur comportement, les médias par leur traitement médiatique, les citoyens aussi, bien sûr. Voilà. Par leur choix, puisque c'est quand même eux qui choisissent les élections. Je vais me faire engueuler là, je suis sûr que je vais me faire. Après ma dernière phrase, là, en disant que les citoyens sont aussi responsables, je vais me faire engueuler, je vais me faire engueuler. Non, pas coupable, responsable. Ah, Loïs Lane ne m'engueule pas et est d'accord avec moi, tu as raison Samuel, on a les médias et les politiques qu'on mérite. C'est une responsabilité partagée. C'est une responsabilité partagée. Voilà. Les médias qui font de la merde, si on ne les regardait pas, si on ne les écoutait pas, économiquement, ils mourraient. Voilà. Donc, à un moment, c'est aussi notre responsabilité de ne pas les consommer. Quoi. Et les politiques dont on se lasse tant, dont on se plaint tant, bah, si on ne votait pas pour eux, ils ne seraient plus là non plus. À un moment, c'est aussi à nous de faire les bons choix, quoi. Donc ça, c'est mon côté un peu vieux con. Bon, allez, je vous écoute. Vous avez raison, et vous avez souvent raison, et vous êtes nombreux à me dire souvent, mais Samuel, tu ne nous rapportes que les mauvaises nouvelles, les catastrophes. Mais ah, tu me fais chier, Roust. Je le dis gentiment, je fais exprès de jurer, j'aime bien jurer. Rouge 64 qui dit « Les médias font de la merde, les gens se mettent des conneries dans la tête. » Mais arrête de dire « les médias ». Ça ne veut rien dire, les médias. C'est comme si tu disais « les Algériens, les Marocains, les Chinois, les... » Mais... Ah, enfin, les médias. Et donc tu mets... la moins bonne des chaînes d'info continue... sur le même plan que qu'un journal comme Le Monde, qu'une radio comme Inter, que ça veut rien dire les médias. Qu'est-ce que tu fais comme métier, Roust? Imaginons que tu sois boucher. Voilà. Pourquoi je dis boucher? Et moi je te dis les bouchers c'est quand même des gros cons, hein, parce que mon boucher c'est un gros con. Imaginons que mon boucher c'est un gros con. Voilà. Ah, les bouchers c'est des gros cons. Tu me dis mais non, les bouchers c'est pas des gros cons. Hein. Tu connais un boucher qui est un gros con. Mais c'est comme dans tous les métiers. Il y a des bons et des mauvais bouchers. C'est comme les chasseurs. Il y a des bons et des mauvais chasseurs. Alors, rappelez-vous du sketch des Inconnus. Blague à part. Évidemment qu'il y a des médias qui font pas bien leur boulot. Évidemment qu'il y a des médias qui en fait déforment la réalité ou par bêtise ou sciemment. Pour des raisons d'audience, voilà, parce qu'ils ont compris qu'il y a des trucs qui marchaient et d'autres qui marchaient moins. Évidemment qu'il y a des médias qui font leur métier avec une absence totale de rigueur, voilà, bien sûr, mais c'est de votre responsabilité de les trouver, ces médias, de les dénoncer et de ne pas les consommer. C'est à vous de faire le boulot. Les médias qui font de la merde parce qu'il y en a, eh ben t'as qu'à pas les, tu ne les écoutes pas, tu ne les regardes pas, et puis point, voilà. Et puis les médias de qualité parce qu'il y a des médias de qualité. Je ne dis pas des médias qui se trompent pas, c'est une activité humaine, les médias ils font des erreurs aussi, mais il y a des médias qui font un travail beaucoup plus rigoureux que d'autres, et bien ceux-là, tu les regardes, tu les consommes, c'est ton boulot, c'est à toi de le faire, tu te documentes, tu recherches, tu compares, tu lis, tu passes du temps, ça demande de l'énergie, ça demande du boulot, ça demande de l'investissement citoyen, un investissement de lecteur, investissement de... voilà. Alors sauf que, bon, quand tu n'as pas envie de faire ça, parce que c'est du boulot, c'est du temps, de l'énergie, et bien tu dis, les médias c'est de la merde, puis voilà, bah oui mais non, en fait c'est trop court. Voilà. Les médias, c'est de la merde. Ça marche pas. Tu peux pas dire ça. Qu'est-ce que c'est dire les médias? Pierre-Paul Jacques 26 sur Twitter qui donne des informations, c'est un média? Ou pas? Une chaîne d'info qui remplit sa grille avec des débats toute la journée, avec quasiment pas de JT de reportage, en donnant la parole aux extrêmes de partout pour bien foutre le feu. C'est un média? C'est peut-être un média, mais c'est un média de merde. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a des médias, il n'y a pas les médias. Voilà. Je pense pas que Roust généralisait aux médias en général, me dit Artemis. Ben dans ce cas-là, Roust, il écrit pas « les médias, c'est de la merde ». Il dit « il y a des médias qui font de la merde ». Ça n'est pas la même phrase. Le français, c'est assez simple, le français. Hein, voilà. Donc ici, c'est une expression publique. Tu proposes tes idées aux autres pour essayer de les convaincre, pour essayer de te faire entendre, pour essayer de créer le débat. Mais si tu n'écris pas ce que tu penses, ben dans ce cas-là, on peut rien faire pour toi, chouchou. Parfois, je m'énerve tout seul, hein, c'est pour le théâtre aussi. Hein. Je fais mon Mélenchon, moi aussi. Hein. Voilà. La chaîne de Twitch de Samuel est-elle un média ? Ça dépend. Si on va au fond du fond, tout ce qui émet une information est un média. Alors, il y a une acceptation classique du média qui est un média serait, on va dire, une production d'une rédaction. Donc une rédaction qui serait celle de RTL ou de TF1 ou de France 3 ou du Monde ou de Libération. Donc un ensemble humain composé de gens qui bossent ensemble et qui sont des journalistes et qui concourent à la production d'un journal, d'une radio, d'un JT que sais-je, voilà, ou d'un média sur Internet. Donc ça, c'est un média dans l'acceptation traditionnelle. Et puis, alors je suis pas un spécialiste de l'analyse des médias, mais à partir du moment où quelque chose ou quelqu'un émet une information, on peut considérer que c'est un média aussi. Voilà. Donc c'est un mot très vague, très large, qui peut couvrir plein de choses. Après, même en prenant une définition très large du mot média, eh ben il y a des médias qui font assez honnêtement, qui essayent de faire assez honnêtement leur travail, qui n'y arrivent pas toujours, hein. C'est une activité humaine faillible, parfois c'est bien, parfois c'est moins bien, parfois c'est réussi, parfois c'est raté, et puis il y en a d'autres qui font de la merde, voilà, effectivement. C'est à vous de le déterminer. C'est à vous de le déterminer. Personne d'autre peut faire ce travail à votre place. Ah, faut que j'arrête de partir dans les éditos, moi. Donc, je vous disais, les médias ont tendance, d'une manière générale, à ne mettre en avant que les mauvaises nouvelles. Les crises, les drames, les catastrophes, hein, pour plein de raisons. Version optimiste, le journaliste estime que c'est de sa mission de rapporter ce qui ne va pas dans le monde, parce que c'est ce qui ne va pas de soi, et de parler de ce qui ne va pas permettrait de prendre conscience de ce qui ne va pas pour essayer de le régler, je ne sais pas, pénurie de médicaments en France, insuffisance de la protection contre les inondations, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est la version optimiste. Les médias donnent les mauvaises nouvelles pour qu'on en prenne conscience en tant que société et qu'on s'en occupe et qu'on les traite. Bon, alors, version pessimiste, mais c'est peut-être un mélange des deux, les médias font ça pour faire de l'audience. Parce que en fait, il se trouve que les drames, les catastrophes, les crises, ça fait plus d'audience. Voilà. Alors, il y a zéro débat là-dessus. Il n'y a zéro débat là-dessus. L'audience, c'est vous. Voilà. Quand on est dans une séquence dramatique dans l'actualité, les JT, les chaînes d'infos, voient leurs audiences exploser. Voilà. De temps en temps, il y a des médias qui essaient de traiter beaucoup de bonnes nouvelles ou mettre en avant les bonnes nouvelles. C'est une catastrophe en termes d'audience. Voilà. Je prends souvent le même exemple. À une époque, à Canal+, il y a très longtemps, vous n'étiez pas né. Canal+, a voulu lancer à la mi-journée une grosse émission tous les midis qui s'appelait le journal des bonnes nouvelles. Bon, c'est extrêmement clair, hein. Un journal des bonnes nouvelles. Ils ont tenu une saison. Une saison. C'était un bide. Les gens ne voulaient pas de bonnes nouvelles. Enfin, si. Il déclarait qu'il voulait des bonnes nouvelles. Il déclarait qu'il voulait des bonnes nouvelles. C'est comme les gens, quand on leur demande dans la rue, qu'est-ce que vous voulez voir à la télé ? Les gens dans les sondages disent quoi ? Ah ben moi je veux des choses intelligentes. Hein. Je veux des émissions culturelles. Hein. Moi, la télé, je veux du théâtre. Je veux de l'opéra. Je veux de la culture. Je veux des documentaires sur les grands peintres et tout. Puis en fait, ils regardent Cyril Hanouna derrière. Voilà. Ou les conneries quoi. Donc en fait, c'est pareil en fait. C'est pareil pour les bonnes nouvelles. Les gens disent, mais moi je veux des bonnes nouvelles, hein, dans les médias. Ouais. En fait, si on te met des bonnes nouvelles, tu vas juste pas regarder, puis tu vas les regarder. Oh putain, il y a un avion qui s'est crashé. Oh la vache, il y a une guerre. Oh, regardez, tous ces morts. Voilà. Alors, voilà. Pourquoi les médias rapportent-ils autant de mauvaises nouvelles ? C'est peut-être pour une bonne raison, pour montrer ce qui va pas dans le monde, pour s'en occuper, et aussi peut-être pour faire de l'audience. Alors, il y a un truc qui ne va pas dans ma petite démonstration, là, comme souvent d'ailleurs, parce que je n'ai pas toujours raison, c'est Thierry Le Bonnet et d'autres qui disent « Ouais, mais Pernod marchait bien ». C'est vrai. Je sais pas comment analyser ce truc-là. Parce que Jean-Pierre Pernaut, il avait pris un peu le contre-pied de ça dans son JT de 13h de TF1. Effectivement, c'était un journal qui parlait très peu de ce qui allait pas. Qui parlait très très peu notamment d'actualité internationale. Alors l'actu internationale dans le 13h de Pernaut, 13h de TF1, c'était, il y avait quasiment rien, quoi, pas beaucoup. Quoi. Et puis par contre, vous aviez des petits reportages sympas sur les artisans, les mecs qui faisaient des sabots en bois. Ça donnait un truc qui était assez apaisant, assez rassurant. Voilà. Et je ne sais pas quoi penser de ça. Je ne sais pas quoi penser. Est-ce que c'est de l'info? Est-ce que c'était encore un JT? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Est-ce que le succès de ce journal, en fait, vient me donner tort en disant, ouais, tu vois, Samuel, quand on propose des bonnes nouvelles aux gens, en fait, les gens regardent. Ou alors, est-ce que c'était un truc de niche, c'est-à-dire que bon, c'était qui s'adressait à un public très particulier, qui n'était pas un gros consommateur d'infos finalement, et qui avait besoin effectivement de reportages un peu sympas comme ça sur la France, la vraie France, la France profonde qui ne change pas elle face à un monde qui s'accélère et qui change à vitesse grand V. Je ne sais pas, j'arrive pas à avoir d'avis là-dessus, quoi. Voilà. Peut-être que vous avez un avis là-dessus, vous. Hein, certains aimaient, hein, tu vois, il y a Tom qui dit que c'était fait avec sincérité, je trouve. Pas du tout, c'était du lavage de cerveau, dis-tu. C'est pour quand le 20h, me dit Nucléon. Pour moi, jamais, c'est pas pour moi, ça. Non, c'est pas pour moi. Voilà, j'ai pas d'avis, mais je vois des avis intéressants. 212 Abdel, des reportages sur les gens, c'est pas de l'info. Voilà. C'était peut-être un public uniquement d'anciens, me dit Twench. Tu vois, par exemple, il y a Syllabule qui dit justement, c'était pas à l'échelle mondiale, mais nationale, le JT de Pernaut. Donc les gens devaient considérer que c'était proche d'eux et plus intéressant. Alors. Là où je vais critiquer un petit peu, c'est que pour moi, un média, ici un JT ou un journal, les journaux que je vous lis, qui ne parle pas de l'actualité internationale, c'est pas possible. Pas possible. Il faut s'intéresser à ce qui se passe plus loin que ton village, plus loin que ta ville, plus loin que ta région, plus loin que ton pays, parce qu'en fait, parce que nous sommes une humanité et que en fait, si on fait l'autruche et qu'on ne s'intéresse pas aux problèmes des autres, problèmes environnementaux, problèmes de migration, problèmes de crise écologique, j'en parlais à l'instant, que sais-je, et autres, des conflits, en fait, c'est ignorer que tous ces problèmes que vivent des pays étrangers peuvent aussi nous impacter. En matière d'écologie, c'est évident, en matière de conflit, c'est évident. Là, il y a une forme d'importation du conflit israélo-palestinien en France, par exemple. Donc, en fait, c'est faire l'autruche, et il faut s'intéresser à l'actualité internationale pour plein de raisons, ne serait-ce que parce que tout espagnol qu'il est, tout serbe qu'il est, tout ukrainien, tout russe, tout chinois, que sais-je, c'est un humain, tout simplement, et que nous sommes tous humains, et il ne s'agit pas de s'intéresser juste à son voisin. Voilà, de paliers ou de villages, mais s'intéresser à tout ce qui est l'humanité aussi, je pense. Donc dans un média, il doit y avoir de l'actualité internationale. C'était déjà une petite faiblesse de ce JT, je pense, de Pernaut. Mais ça n'est que mon humble avis. Quand il sera vieux, vers 50 ans, Samuel, il fera le 20h. C'est trop gentil. J'ai largement dépassé ce cap, mais je ne ferai jamais plus de JT, parce que du JT j'en ai fait, mais je n'en ferai plus. Je vous lis. Il y a Flop qui me dit qu'au Japon, tous leurs journaux étaient comme ceux de Pernaut, voire même plus sur les bonnes nouvelles locales. Vous savez, je suis pas un spécialiste du Japon, même si j'y ai passé un peu de temps. Je crois pas que les Japonais s'intéressent beaucoup aux autres et aux étrangers et à l'actualité internationale, à la base. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Bon. Soltry Karenchi dit, et du coup la presse écrite régionale n'est pas de l'info. Est-ce que Soltry Karenchi, qui est un habitué, qui est adorable d'ailleurs, qui soutient la chaîne depuis longtemps, je crois que tu n'as pas lu la presse écrite régionale. Tu prends tous les titres de la presse régionale de qualité, page nationale, page internationale, dans un journal comme Ouest France, qui est le plus gros tirage en France de la presse, tous journaux confondus, hein, devant même la presse nationale Ouest France, tu as des pages très importantes sur l'actu internationale qui sont de très grande qualité. Donc la presse régionale dont tu parles, elle ne parle pas que de la région, elle parle du village et elle parle de l'Ukraine. Hein. Ben, pour moi, ça, c'est un média. Enfin bon, on s'est un peu écarté. Tout ça pour vous dire que... Attends, c'est drôle parce que je voulais dire un truc tout simple, j'ai fait un édito d'une demi-heure. Je pense que les médias ne rapportent pas assez de bonnes nouvelles, et vous m'avez convaincu là-dessus, parce que certains me l'ont dit. Pourquoi ? Je pense qu'il faut dénoncer ce qui ne va pas dans notre monde pour effectivement en prendre conscience et essayer de le changer. Mais parfois, les bonnes nouvelles, les choses qui se passent bien, peuvent aussi être inspirantes, peuvent aussi donner des idées, voilà, sur la manière justement de faire marcher mieux le monde, quoi. Et ça, en fait, c'est une prise de conscience un peu tardive de ma part, mais il était temps, quoi. Et là, par exemple, je vois qu'il y a un concours assez marrant dont parle Le Parisien pour désigner, c'est très subjectif, c'est un petit peu gadget, mais c'est pas inintéressant, le meilleur prof du monde. Nicolas Gaube, c'est un Français, il a 46 ans, enseignant en collège dans l'Hérault, fait partie des 10 finalistes de quoi ? Du Global Teacher Prize, souvent considéré comme le Nobel de l'éducation, on va voir de quoi il s'agit, à la clé, 1 million de dollars. 1 million de dollars pour le prof. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait, 1 million. 1 million de dollars. Donc, bon, ça, c'est anecdotique. Ce qui est intéressant, c'est le fond, c'est comment ces enseignants sont choisis et distingués. C'est un professeur heureux qui pourrait l'être davantage encore ce mercredi soir au siège de l'UNESCO. Donc, manifestement, c'était ce soir. Peut-être que l'info est tombée. Mais bon, il y avait assez peu de chances que ce soit un Français qui gagne au final. Nicolas Gaube, 46 ans, enseigne les sciences et vie de la Terre dans l'Hérault. Il figure parmi les 10 derniers candidats du Global Teacher Prize, concours souvent présenté comme le Nobel de l'éducation. Moi, je ne connaissais pas ça. Depuis 2015, il récompense chaque année un enseignant en méthode innovante. Le gagnant empoche la coquette somme de 1 million de dollars. Vous savez ce que ça fait, 1 million, l'Armina ? Vous savez ce que ça fait, 1 million ? 940 000 euros, remise par la fondation Varquet à l'origine de ce prix. Son créateur, Sonny Varquet, il faut s'intéresser à savoir d'où vient cet argent quand même. Combien ? Son créateur, Sonny Varquet, à la tête d'un puissant groupe d'enseignement privé, explique vouloir mettre en lumière l'importance de l'éducation pour relever les grands défis à venir. C'est cool. Pour le changement climatique, les inégalités croissantes, les pandémies globales. Ben, le truc est assez cool en vrai. Le Global Teacher Prize n'a jamais été remporté encore par un candidat français. C'est une grande leçon d'humilité d'être parmi les 10 finalistes, confie Nicolas Gaube, mais il est difficile de se comparer, dit-il, ce professeur qui est assez modeste, à un professeur ukrainien qui essaie de transmettre l'amour de la littérature dans un pays en guerre. Il parle des autres candidats, ou de se comparer à un candidat venu d'Inde qui peint sur les murs pour les enfants des rues, ou cette enseignante qui a monté une école pour les petites filles au Pakistan, dit-il. Dans une certaine mesure, on mérite tous de gagner, mais évidemment ce prix de 1 million de dollars rendrait des services extraordinaires à ces enseignants-là qui sont issus de pays en crise. Reste que notre Frenchy n'est pas arrivé là par hasard. Son travail a séduit le jury composé d'universitaires, de chefs d'établissement, de journalistes, de chefs d'entreprise, de scientifiques du monde entier. Au sein de son collège René Cassin, où il officie depuis 17 ans, Nicolas Gaube, on va essayer de comprendre pourquoi il est dans les derniers sélectionnés. Nicolas Gaube est une véritable boîte à idées. Au fil des ans, le quadragénaire a développé deux projets pédagogiques, notamment. Le premier, et si on apprenait ensemble, vise à rassembler les parents, les élèves, les profs autour d'initiatives pédagogiques innovantes. Nous partageons avec la moitié des professeurs de l'établissement des pratiques de classe communes qui s'inspirent des sciences cognitives, dit-il. Par exemple, ils ont une boîte à questions avec des notions à mémoriser. Et chaque professeur, à chaque début de cours, va poser une question aux élèves, même si ce n'est pas sa matière. Voilà, de petits trucs comme ça. On explique aussi aux enfants comment fonctionne le cerveau, comment mieux apprendre, dit ce passionné d'informatique, de jeux vidéo, donc c'est forcément une belle personne, et de littérature. Nous n'enseignons pas dans un... Je note que le professeur français, qui est dans le classement des meilleurs profs du monde, là, c'est un gamer. Je dis ça. Je dis rien. Mia, merci pour le prime. Hein ? Nous n'enseignons pas dans un collège facile, dit-il. Il y a des classes à 30 élèves souvent en difficulté, avec un taux d'absentéisme... élevé. Ah, merci. Voilà, on dit que le français ne l'a pas gagné le concours. Bon, c'était pas attendu. Et que c'est quelqu'un d'autre qui est Sister Zef, c'est ça? Attends, est-ce que c'est une info? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est peut-être une religieuse qui pourrait être enseignante? Hop. Ah oui, c'est ça. C'est une professeure pakistanaise. Voilà. Eh bien, je crois que le professeur en parlait. Donc, elle a créé une école pour les jeunes filles au Pakistan, peut-être, c'est ça? Attendez. Est-ce qu'il en parlait? Le prof. C'est lui qui en parlait. Ouais, c'est ça. Une enseignante qui a monté une école pour les petites filles au Pakistan. Hop. Regardez. C'est elle. Sister Zef. Je pense que si on va sur l'actualité, on va trouver peut-être. Je l'avais là. Voilà. Je s'affiche Wiki là. Prof pakistanaise, activiste féministe et philanthropiste. Voilà, pakistanaise. Voilà. Ouais. C'est ça. C'est annoncé sur. C'est tout frais, hein, puisque manifestement vous avez trouvé l'info sur les réseaux sociaux. Voilà. Bon, manifestement, de toute façon, le français n'attendait pas à gagner. Hein. Je reviens à tous les projets pédagogiques qu'il a montés. Donc il dit qu'il n'est pas dans un collège facile, avec des classes surchargées, un taux d'absentéisme élevé. Il dit à travers ses projets, on essaie aussi de renouer le lien entre l'école et. Merci beaucoup, MMG. Et les familles. Le but, ce serait de les faire venir en classe. Tiens, regardez. Oh, regardez la qualité des modos. Ils ont trouvé l'info sur le compte Twitter du Global Teacher Prize, hein, qui accorde ce prix, donc $1 million, à Sister Zef, voilà, qui a gagné ce prix cette année. Voilà. C'est vraiment, on dirait un petit peu le Ballon d'Or, leur truc. Hein. Vous ne trouvez pas que ça fait un peu. C'est un petit peu animation Ballon d'Or truc, là, on a l'impression que c'est Messi qui vient chercher son 8e ballon là. C'est marrant, c'est rigolo. Qu'est-ce que je suis comique, moi, toujours à faire des blagues comme ça. C'est quel talent, c'est formidable, c'est vraiment très impressionnant. Je me donne mal à la tête parfois de dire toutes ces conneries. Donc voilà, faire venir les familles à l'école, par exemple. Le but, ce serait de les faire venir en classe pour qu'elles voient en direct comment on travaille avec leurs enfants. C'est bien ça. Hein. Il a fait un autre projet aussi, baptisé Déplace ta classe. Alors, le projet Déplace ta classe, il est super intéressant. Quand une classe se comporte pas bien, eh bien, ce prof, en fait, propose d'exporter cette classe à la campagne, c'est-à-dire que quelle que soit la saison, ils prennent la classe, ils la mettent dans un champ. Les profs s'en vont, et alors qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, ils se barrent et ils voient ce qui se passe. Voilà. C'est le déplace ta classe. Bon, c'est assez original. Voilà. C'est assez étonnant aussi, parce que on se demande ce qui pourrait arriver aux enfants, aux jeunes. Voilà. Non, évidemment, c'est une connerie. Vous faites une blague. Non, ça s'appelle vraiment déplace sa classe. Mais le projet, c'est pas ça. C'est pour repenser l'aménagement de la salle de cours en 4 zones principales, une manière de favoriser l'autonomie et le bien-être des collégiens. Si je gagnais le prix mercredi, à condition que ce soit possible juridiquement, disait le prof français, mais finalement il a perdu, j'aimerais, c'est trop mignon, écoutez, réinvestir la somme au sein de mon établissement pour assurer le bien-être des élèves et de mes collègues. Le mec, il disait, si on me donne le million, je vais le réinvestir dans l'école, et j'aimerais aussi partager l'argent avec les autres enseignants du top 10 pour les aider à développer leur propre école. Mais ce gars-là, le gars-là, Nicolas Gaube, c'est un total goat quand même, quoi. Vous avez vu le gars? Il dit, alors moi, si je gagnais le million, je l'investirais dans l'école et puis je le partagerais avec les autres candidats du Pakistan et tout, quoi. Pff, comme le dit Akaz, Loïs Lane, juste au-dessus, il y a des gens qui ont la classe, c'est le cas de le dire. C'est un enseignant. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Et on finit en beauté avec ce petit débat dans Le Parisien, toujours. Il y a des journaux comme ça, il y a des jours que je trouve plus inspirés. Ça m'arrive de lire Le Parisien, de rien vous mettre de côté. Il y a Elton John qui a écrit pour dire son admiration pour l'enseignant. Les couilles, je lui gobe Nicolas. Bon, alors c'était une façon un petit peu abrupte de dire ton admiration pour cet enseignant. Du coup, ça a été supprimé par un modo, mais on a à peu près compris l'idée. Quelque part, ce que tu voulais dire, c'est j'estime qu'il serait de bon aloi de clamer mon admiration pour cet homme, pour l'humanité de cet enseignant qui fait passer l'intérêt d'autrui avant son propre intérêt, l'intérêt des enfants, des élèves, des parents, des familles, de la communauté, du collectif, voilà, avant même son propre intérêt. C'est ça que tu voulais dire en disant que tu voulais lui gober les couilles. Bien sûr, voilà, je traduis un petit peu parce que je parle un peu le langage jeune aussi. Pour finir, un article sur la difficulté d'être humoriste aujourd'hui en France, c'est compliqué. Faire rire en ce moment, un véritable casse-tête, hein, c'est le Parisien qui est allé voir différents humoristes. Depuis les attentats du Hamas en Israël le 7 octobre, l'évolution du conflit rend le travail des humoristes d'actualité particulièrement complexe et observé, déclenchant parfois de vives émotions, voire des polémiques. Nous avons interrogé des chroniqueurs de France Inter, RTL et RMC, et on va évoquer la polémique, vous savez, de l'humoriste de France Inter qui a dit des trucs là sur Netanyahou. Le constat est signé Arnaud Demanche de RMC. Tous les humoristes qui travaillent sur l'actu sont épuisés. En ce moment, il faut une énergie trois fois supérieure à la normale. Tu dois faire gaffe à la façon dont toutes tes phrases vont être perçues. On doit faire preuve de légèreté, de pertinence, d'impertinence, mais pas trop. Et Mija qui dit c'est quoi un humoriste d'actualité ? Bon, c'est un humoriste qui fait de l'humour sur l'actualité. Voilà. Un mois après les attentats du Hamas en Israël, l'équation est très compliquée. L'évolution du conflit rend l'exercice de la chronique humoristique extrêmement périlleux. D'habitude, on est encouragé à taper fort, c'est même pour ça qu'on nous engage, dit Arnaud Demanche. Mais là, le contexte nous incite à aller pas trop loin, alors que c'est dans notre ADN d'aller loin pour faire rire, pour provoquer quelque chose, quoi. T'as raison. Putain, Nico Manga, t'as raison. C'est bon, on a trouvé la carte blanche de Arnaud pour vendredi. Ouais, Arnaud de sa mère qui est invité, c'est très bien ce que tu dis. Et je pense qu'en fait, je pense qu'il faut aller au-delà. Je pense que ça peut être un thème principal. C'est-à-dire comment... Je pense qu'on peut faire un thème très sympa sur... Peut-on rire de tout, tu vois, hein. Le bon vieux débat sur peut-on rire de tout. C'est plus qu'une carte blanche. J'ai envie de faire carrément... Ah ouais. Si, c'est pas mal, c'est pas mal. On a un humoriste. C'est Arnaud de sa mère, on va en profiter. Hein. Bonne idée. Eh, bravo Nico Manga, champion. Résultat entre nécessité de continuer à flirter avec la ligne rouge, c'est ça l'humour, et obligation de ne pas la franchir au risque de provoquer une tempête, le boulot du chroniqueur ressemble à celui d'équilibriste. Vous savez, moi je suis bien content de ne pas être humoriste. Hein. En ce moment, j'ai l'impression de travailler dans un cirque, fait entrer les trapézistes, préférant rire Jamil Le Schlag au micro sur France Inter dans Le Grand Dimanche de la bande à Charline, une émission sous les feux des projecteurs depuis la fameuse polémique. Consécutive à la chronique de Guillaume Meurice, hein, le 29 octobre, vous êtes peut-être au courant, qui a comparé dans un sketch le Premier ministre israélien à un nazi sans prépuce, je cite. Parti cet été sur RTL, Alex Vizorek, qu'on aime bien ici, qui est un habitué de l'hebdo Étienne, constate, je l'aime bien d'ailleurs, constate que les humoristes sont davantage observés, donc qu'ils doivent faire encore plus attention que d'habitude. J'essaie de faire attention, dit M. Vizorek, on en entend déjà pas mal parler de cette actualité, donc quand c'est mon tour, j'essaie d'aborder autre chose. La parole à Philippe Cavrivière, qui est un autre humoriste, et il dit c'est normal de se poser la question de savoir si on est légitime à faire une blague sur la guerre. Un jour sur RTL, j'en ai fait une sur l'Ukraine et j'ai confié mes doutes à un invité qui est Boris Cyrulnik, vous savez, le neuropsychiatre qui est spécialiste de la question de la résilience, dont les parents juifs ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale, et Boris Cyrulnik a dit à cet humoriste, tu sais, on faisait des vannes dans les camps de concentration. Et sa réponse a été un déclic pour moi. Et de citer Romain Gary, l'humour est une déclaration de dignité, une affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Je trouve ça assez intéressant. Walidia, quelqu'un citait Walidia tout à l'heure, a pris l'épineux sujet à bras-le-corps dans sa dernière chronique sur France Inter. Déjà, s'exprimer sur Israël-Palestine, en règle générale, c'est tenter, dit-il, je trouve ça assez drôle, un moonwalk bourré au milieu d'un champ de mine, mais là, avec la contrainte actuellement, c'est le faire de nuit. Je trouve que c'est assez joliment dit. Voilà. En tout cas, je trouve assez intéressant ce que certains disent, à savoir que ça pourrait être un thème de l'hebdo Étienne de vendredi. Et là, vous vous dites, mais Samuel est en train de prendre le ton de quand il finit la revue de presse, là. Hein ? Quand je ralentis un peu. Et là, eh bien, eh oui, exactement. Exactement, parce que bon, faut pas déconner, hein, c'est un petit stream de 2h12, mais bon, les gars, je me suis réveillé à 5h, j'ai lu les journaux, j'ai fait question pour un champion toute la journée, je suis rentré en courant à la maison, j'ai dîné avec mon épouse, j'ai passé un peu de temps avec les enfants, je suis venu ici, j'ai montré le studio aux deux journalistes de France 5, on a lancé le stream, blablabla. Demain, on tourne toute la journée, question pour un champion, demain soir, le grand concours des animateurs sur TF1, c'est au Cirque d'Hiver, c'est magnifique à Paris, je suis super content, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté, je vais me régaler. Le soir, demain soir, après tout ça, je rentre, je prépare l'hebdo Étienne, parce qu'il faut que j'envoie les thèmes aux invités demain soir, je vais exploser. Et puis, attendez, c'est pas fini, qu'est-ce qu'on a encore et puis ça va, vendredi, bon, j'ai 2-3 rendez-vous dans la journée, des trucs, ouais, j'ai 3 gros rendez-vous dans la journée, et vendredi soir, l'hebdo Étienne. Voilà. Donc, tout ça pour m'excuser. Fin de la revue de presse. Voilà. Et si on faisait un petit Rocket League rapide? Et si on faisait un petit Rocket League rapide? Un petit Rocket League? 10 minutes. 10 minutes. Rapide, rapide. Enfin, un petit 1. Rapide, rapide. Pas plus. Non, mais un 15 minutes. Pas plus, parce que... Non. Oh, merde, j'ai perdu mon câble. Bougez pas. Non, mais rapide, parce que j'ai le droit à une petite détente.